Nous allons passer au point numéro 1, débat d'orientation budgétaire. Et je passe la parole à Monsieur Toulouse.
Bien, merci, Monsieur le maire. Donc on est sur le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire sur l'explication des choix qui vont nous conduire à présenter le budget 2013 qui sera présenté au prochain conseil municipal. L'année 2013, comme l'a été l'année 2012, marquera au niveau national comme au niveau européen la continuation de la crise qui nous frappe depuis 2009. Les effets de cette crise se font sentir sur le plan économique comme sur le plan social. Et cela va avoir un impact important sur nos orientations budgétaires pour l'année 2013. L'État français s'est engagé dans un processus de réduction du déficit budgétaire et de rétablissement des finances publiques. Les collectivités locales et donc la ville de Metz seront associées à cet effort nécessaire. La dotation aux collectivités locales sera gelée en valeur en 2013. À Metz, nous percevrons donc la même dotation globale de fonctionnement qu'en 2012. Seule la dotation de solidarité urbaine et le fonds de compensation de la TVA pourrait progresser sur l'année 2013. Sur le plan social et économique, l'impact des restructurations militaires peuvent être évalués. On peut partir sur une perte de 2000 emplois avec les quelques compensations qu'on a eues jusqu'à présent, donc 2000 emplois sur l'agglomération, qui, conjugués aux effets de la crise, aux fermetures d'entreprises et aux plans sociaux, font que le taux de demandeurs d'emploi atteint les 10% sur notre agglomération, et plus encore pour les plus de 50 ans et pour les plus jeunes. Malgré ce contexte difficile, le budget 2013 continuera à marquer notre volonté d'être proche des Messins, de développer l'attractivité de la ville et de préparer l'avenir. Il est à noter que nous avons fait le choix pour 2013 de ne pas toucher au taux de taxes d'habitation et de taxes foncières, donc les taux des impôts locaux resteront stables, et ce, il faut le noter, pour la troisième année consécutive. Nous devrons donc répondre, dans ce contexte où les recettes de la ville évolueront peu, à un triple défi: augmenter le niveau de ville, entretenir les dynamiques installées et continuer à construire le futur. Le premier défi, augmenter les niveaux de ville, c'est pour nous faire encore plus de proximité, plus de solidarité et plus de partage. Les actions qui ont été entamées depuis 2008 continueront et de nouveaux services vont apparaître, et je laisse mes collègues en parler tout à l'heure. Nous augmenterons le niveau de ville en maîtrisant les coûts. Ça, c'est l'aspect important pour ce budget 2013 qui marquera la continuation de l'effort budgétaire que nous menons depuis 2008. Nos ressources progressant peu, c'est sur notre organisation, notre manière de fonctionner, que nous pourrons dégager les marges de manœuvre nécessaires pour offrir de nouveaux services aux médecins. Améliorer la performance des services, améliorer l'organisation du travail, tout en continuant à reconnaître le travail fourni par les agents, c'est sur ces points que le budget 2013 marquera des efforts importants. Nous allons faire plus, faire mieux, sans dépenser plus. Deuxième défi, entretenir les dynamiques installées. Nous allons continuer à investir de manière importante. Nous sommes, ville de Metz, un acteur économique majeur, et l'investissement public contribue à améliorer la qualité de la ville, mais aussi à un impact fort sur le développement économique. En période de crise, il est primordial de continuer à investir et nous le faisons de manière soutenue maintenant depuis 2008. Nous prévoyons en 2013 54 millions d'euros d'investissements publics nouveaux. Nous allons aussi entretenir les dynamiques installées en continuant à soutenir les associations. Les subventions municipales ont en effet un effet multiplicateur fort sur les associations. Ces dernières, les subventions permettent aux associations d'offrir de nouveaux services aux médecins, de créer de l'animation, il n'y a qu'à voir le succès de Metz-Plage ou le succès du marathon, d'améliorer le lien social dans les quartiers, mais aussi de créer de l'emploi et de créer de l'activité économique, et ça, nous en avons cruellement besoin. Nous continuerons cet effort de soutien en 2013. Troisième défi, continuer à construire le futur. Nous continuerons à construire la ville de demain, nous l'avons commencé, nous le continuerons en 2013. Nous allons poursuivre les grands projets. 2013 verra la fin de Métis, enfin la mise en fonctionnement de Métis, verra l'ouverture de la BAM, verra la création de nouveaux restaurants scolaires, verra l'aboutissement du plan vélo et verra un effort important de rénovation dans les centres socioculturels. Nous continuons notre réflexion et nous nous projetons donc en 2030 avec la grande réflexion qui s'est engagée, la démarche MES 2030 pour travailler durablement sur les enjeux, les projets et l'image de la ville à moyen et à long terme. En conclusion, nous pouvons dire que 2013 marquera 2013 manières de partager la ville. La transformation de la ville est visible et maintenant reconnue. L'action municipale a encouragé la demande de services, a sollicité la participation citoyenne et accru l'exigence des administrés autant que les responsabilités à l'égard de la ville. Ainsi, en 2013, nos orientations budgétaires proposent le partage des espaces, des places de parc, les parcs, les terrasses, les zones 30, le partage des temps de vie, le repas des cantines, le périscolaire, les pauses méridiennes, le partage des récoltes, l'image de la ville, la nouvelle attractivité touristique, l'identité des Messins, ainsi que des perspectives d'avenir, le projet de ville, les ateliers urbains, les comités de quartier et la coopération métropolitaine qui se renforce. En conclusion, je vais vous donner quelques données pour finir, et quelques données de cadrage et de conditions d'équilibre pour la construction de notre budget primitif 2013. Premier choix, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale et ce pour la troisième année consécutive, ça nous pourrons le marquer. Ça vous fait rire, madame Zimmermann? Si vous voulez, je redis, comme ça vous pourrez rire plus fort. Donc je redis, il n'y aura pas d'augmentation des taux de la fiscalité locale en 2013, et ce, pour la troisième année consécutive. Un budget de fonctionnement à hauteur de 146,9 millions d'euros qui marque une maîtrise des dépenses en évolution de 3,63%, les recettes progressant de 2,42%. Ça vous laisse mesurer l'effort que nous allons faire sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour l'année 2013. L'autofinancement sera maintenu dans une fourchette entre 11 et 12 millions d'euros pour 2013, qui est un autofinancement important, en tout cas beaucoup plus important que ce qu'on peut trouver dans les villes de taille comparable. Un budget d'investissement envisagé à hauteur de 54 millions d'euros. Et enfin, un recours à l'emprunt qui sera extrêmement modéré en 2013 et uniquement s'il est nécessaire. Merci.
Merci, monsieur Toulouse. Alors, je veux ouvrir le débat. Je vois donc monsieur Lekadir, monsieur Thiel, on va prendre les présidents de groupe, hein. Lekadir, Thiel, Zimmermann, alors monsieur Darbois, madame Colin Osterley, madame Bourri, monsieur Lebeau, monsieur Etner, alors, monsieur Aldrin, madame Letty, monsieur Maréchal, alors madame Palaise et monsieur Lioger. Eh bien, on y va. Alors, les Kadir.
Monsieur le maire, chers collègues. Depuis 2008, les Messins voient de nombreuses nouvelles actions mises en œuvre par cette majorité. Ils n'ont jamais vu autant de travaux et d'investissements mis en œuvre dans cette ville et dans l'agglomération. À ce jour, plus de 90% de nos engagements pris devant les électeurs en 2008 sont mis en œuvre. Notre action à la tête de la ville se caractérise par deux éléments. Tout d'abord, une gestion saine et performante et une politique volontariste et dynamique pour le quotidien des Messins, d'une part, et pour préparer l'avenir. La gestion saine et performante se distingue dans plusieurs points. Le premier, c'est le niveau de dette de la ville. Il est à un niveau extrêmement faible, autour de 100 euros par habitant contre 1100 euros par habitant contre 1088 pour la moyenne nationale. Et depuis 2008, nous avons même réduit la dette de la ville, contrairement à ce qui se dit ici ou là. L'endettement a très modérément augmenté en 2011, mais il est aujourd'hui en dessous du niveau atteint depuis 2008 et il recommence à baisser de nouveau. Tous les classements nationaux montrent le niveau de Metz dans ce domaine et Metz se distingue par un classement tout à fait remarquable. Le deuxième élément de cette gestion saine, c'est la fiscalité, le niveau de la fiscalité à Metz. Pour la troisième année consécutive, ça a été dit, il n'y aura pas d'augmentation de fiscalité. Contrairement à ce qui se dit, il n'y a pas dans cette ville de matraquage fiscal. Parler de matraquage fiscal, c'est mentir aux Messins qui reçoivent effectivement leur feuille d'impôt et qui voient la réalité de cet effort que nous reconnaissons et que nous assumons, qui a été demandé aux Messins à deux reprises pour pouvoir remettre le niveau des finances de la ville à niveau. Cet effort a permis de remettre les finances de la ville dans une dynamique positive. En 2012, le magazine Les Échos montre le classement de Metz dans le domaine de la fiscalité, 397 par habitant à Metz contre 529 pour la moyenne nationale. On est une nouvelle fois dans ce domaine les champions de France. Enfin, cette gestion saine se distingue par la maîtrise des coûts de fonctionnement. Depuis 2008, ceux-ci ont été maîtrisés, la gestion a été responsable. Vous nous avez, monsieur le maire, demandé à plusieurs reprises de maîtriser les dépenses et de faire en sorte que nos actions se développent tout en restant dans un esprit maîtrisé et dans des dépenses maîtrisées. Et c'est une nouvelle fois dans ce sens que nous nous sommes engagés, puisqu'en 2013, le budget de fonctionnement sera extrêmement maîtrisé. Et je rappelle un chiffre, nous avons des coûts de fonctionnement qui sont inférieurs aux villes comparables, 557 euros par habitant à Metz contre 625 pour la moyenne nationale. Face à cette gestion responsable, nous avons mis en place une politique volontariste et dynamique. Cette politique volontariste, elle se voit d'abord dans le champ des investissements, avec depuis 2008 de nombreuses réalisations dans tous les domaines. Ces investissements, c'est d'abord pour préparer l'avenir de cette ville, l'avenir des habitants et des Messins, mais c'est aussi plusieurs millions d'euros injectés dans l'économie locale en cette période de crise qui a permis de maintenir ou de créer de nombreux dizaines d'emplois. Je rappelle un chiffre qui est significatif dans ce domaine. Le taux de réalisation est de plus 17% entre 2007 et 2012. Nous sommes à plus de 56 millions d'investissements, ce qui montre le volontarisme de notre politique. Je citerai un autre élément qui montre le volontarisme de notre action, c'est le soutien qu'apportent les entreprises privées et le mécénat privé à nos actions. En 2012, plus d'1 million d'euros a été injecté dans les finances de la ville pour porter des actions qui ont de plus en plus de succès, comme Metz Plage, Metz Marathon ou encore la Nuit Blanche. Enfin, cette politique volontariste se voit dans les nombreuses actions que nous mettons au service des Messins. L'amélioration incontestable des cantines scolaires, du périscolaire, des actions aussi importantes que Metz Plage, l'accompagnement de la jeunesse, la Nuit Blanche, je l'ai cité, une politique culturelle dynamique et ouverte à tous avec une diversification des publics et l'investissement des quartiers, et j'en passe. Je terminerai par un point qui me semble symbolique. Depuis 2008, nous avons soutenu comme jamais le tissu associatif local dans une période difficile de réduction des moyens de l'État. Et nous sommes à ce jour à plus de 32% d'augmentation des moyens injectés dans ce domaine, qui est un domaine éminemment important puisqu'il crée et il porte le lien social dans cette ville. Je vous remercie.
Alors, monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire et chers collègues, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'exercice. Nous ne sommes ni là pour faire du panégyrique ou de la critique du budget, puisque ce n'est pas le moment du budget. Nous sommes là pour le débat d'orientation budgétaire, je le rappelle, et le débat d'orientation budgétaire, c'est normalement la grande écoute du maire qui, généralement, se tait après, puisqu'il prend acte des désirs de sa majorité comme de l'opposition. On va voir si c'est vrai, d'ailleurs. S'il se tait après, ça, on va voir. Bon, en tous les cas, il y a beaucoup de maires en France qui se taisent après votre prédécesseur, c'est ce qu'il faisait. Alors, écoutez, monsieur le maire, moi, je voudrais en revenir aux grands équilibres et simplement dire pour notre groupe ce que nous souhaitons, puisque c'est ça, le débat d'orientation budgétaire. Et avant de dire ce que nous souhaitions, je voudrais tout de même un peu éclairer, comme vous le faites d'ailleurs dans votre note, et la note est pas mal d'ailleurs, il faut le reconnaître, le contexte ambiant. Dans le contexte ambiant, monsieur le maire, si nous avions encore été sous la précédente majorité, nous aurions, comme d'habitude, entendu des cris d'orfraie, un scandale sur les finances publiques locales, le gel de la dotation des subventions d'État, ce qu'on appelle les dotations globales de fonctionnement, etc., sur les budgets des collectivités locales. Que n'aurions-nous pas entendu ? Or, en 2013, le budget, alors il faut y regarder de près le budget 2013 de l'État, prévoit certes de rester constant, c'est-à-dire c'est le gel qui a toujours été pratiqué depuis les années de crise, c'est-à-dire en gros 2010, crise 2009, 2010, 2011, dans les budgets d'État, et ce qui vous faisait, vous et vos amis politiques, crier, hurler, vociférer contre le président de la République de l'époque en disant, vous rendez compte, un gel des subventions, ça équivaut à une baisse. Et donc, vous aviez l'art, d'ailleurs, de dire que c'était une baisse des dotations. Eh bien, il y a de nouveaux gels, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a un projet de programmation pour les années suivantes qui prévoit là une baisse de 750 millions d'euros par an sur les années 2014 et 2015 pour tenir compte de la situation de l'Europe, notamment, et de la crise internationale. La grande différence, voyez-vous, monsieur le maire, entre vous et nous, c'est pas que nous prétendions qu'il ne faut pas diminuer cette dotation, parce que tout le monde doit participer à l'effort. Mais ce que la grande différence, c'est que nous avons dit qu'il fallait le faire, et que lorsqu'on a assisté aux campagnes nationales, que ce soit la présidentielle ou les législatives, n'est-ce pas Marie-Jo, nous avons entendu que nous programmions un effort pour les collectivités locales, et nous avons entendu votre candidat et tous ceux qui l'ont suivi après dire le plus grand mal en disant que non, il ne fallait pas faire cette politique d'austérité sur les collectivités locales et que vous y étiez opposé. C'est-à-dire, pour faire bref, que M. Hollande, aujourd'hui président de la République, a dit qu'il ne ferait jamais ça. Il a critiqué parce que c'était dans notre programme et à peine installé depuis 4 ou 5 mois, il s'engage à le faire pour des proportions sans doute beaucoup plus importantes que ce que nous aurions fait nous-mêmes. Deuxièmement, en y regardant de près, le budget qui prétend qu'il y a un gel des subventions, c'est vrai sur le plan global, me fait poser la question de qu'est-ce qu'il se passera à Metz. Or, sur le budget de Metz, la note n'en dit rien. Pourquoi ? Parce que nous avons, dans le projet 2013 de la loi de finances, un certain nombre de mécanismes de répartition, de compensation, de péréquation entre ce qu'il faut bien appeler dans le jargon qui vous est habituel les riches et les pauvres en matière de communes, et qu'on ne sait pas du tout ce que cela donnera pour Metz. On ne le sait pas. Enfin, à travers votre note, on n'en sait rien. Donc, on ne peut pas savoir aujourd'hui, dans le contexte de l'orientation budgétaire que l'on peut donner, si les dotations diverses et variées pour la ville de Metz vont être en augmentation ou si elles vont être en diminution. On n'en sait rien, parce qu'on sait simplement que c'est un gel global. Ensuite, monsieur le maire, vous vociferiez aussi, comme votre majorité, contre ce que vous appeliez, mais je n'ai jamais vu de quoi il s'agissait, le transfert des charges de l'État aux collectivités locales. Alors, je veux bien admettre que pour les passeports ou les objets trouvés, effectivement, il n'y a pas eu un transfert, mais on a demandé aux collectivités locales de s'en occuper un peu davantage. Je n'ai pas vu autre chose. En revanche, j'entends la réforme des rythmes scolaires. C'est un exemple. Je pourrais les multiplier. Y a-t-il, et ça va se traduire forcément par une obligation pour les mairies, les communes de France, de prendre en charge les enfants pendant plus longtemps, dans le cadre du périscolaire ou ailleurs. Or, il n'est absolument pas prévu dans le cadre du budget 2013, et aucun engagement de l'État n'a été pris dans ce sens, bien au contraire, de dire qu'il y aurait une compensation pour la charge supplémentaire que représenterait ce changement des rythmes scolaires. 500 000 euros peut-être pour ce qui nous concerne. Enfin, monsieur le maire, la grande différence entre quand nous sommes aux responsabilités et quand vous y êtes au niveau global, tout ça dans le cadre de la conjoncture globale qui nous occupe, c'est qu'en fait, toutes ces restrictions budgétaires, parce qu'il faut bien le dire, de l'État sur les collectivités locales et notamment sur les communes, eh bien, ces restrictions se passent sans aucune réforme de structure. Sans aucune réforme de structure. C'est-à-dire que l'on peut comprendre que l'on fait des économies quand on accepte de réduire le millefeuille. Vous savez, cette fameuse réforme région, département et collectivité territoriale. En revanche, c'est beaucoup plus difficile à supporter quand, face à des restrictions budgétaires, que nous comprenons, je le répète, eh bien, il n'y a aucune réforme de structure en place. Et là encore, on a dit, surtout, on ne touche à rien. On ne touche à rien, mais on prétend réduire les subventions aux collectivités locales. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça va peser directement sur nous. Dans ce contexte, monsieur le maire, quel est le conseil? Qu'est-ce que nous souhaiterions pour le budget 2013? Eh bien, nous souhaiterions parfois ce que vous dites, mais que vous ne faites pas. Parce que lorsqu'on a moins de dotations d'État, quand il y a moins d'argent, il ne faut pas augmenter les impôts, ce que vous avez fait à plusieurs reprises, même si vous vous louangez aujourd'hui de ne plus le faire. Néanmoins, il faut rester sage. Et la sagesse, monsieur le maire, c'est non pas de présenter, avec, comme on vient de l'entendre à la fois par le rapporteur et par le président du groupe majoritaire de cette Assemblée, de dire « nous nous réjouissons que les dépenses de fonctionnement n'augmenteront que de 3,33%, alors que pour nous, ça devrait être une baisse, parce que quand on obtient moins d'argent, quand les habitants sont moins riches, on doit s'engager non pas à augmenter de plus 3,33% les dépenses de fonctionnement, mais on doit s'engager à les réduire, monsieur le maire. Et là, il y a de grandes marges à faire. » Réduction et non pas augmentation des dépenses de fonctionnement. En plus, comment afficher dans un projet de budget 2013 préparé par vos amis, comment peut-on afficher que les taxes augmenteront obligatoirement de 1,8% parce que c'est l'augmentation qui est prévue déjà, même si vous ne touchez pas au taux, 1,8% de plus sur les impôts des Messins, alors que vous doublez cette augmentation par vos dépenses de fonctionnement? Je veux dire, l'État dit on augmente d'1,8 les bases d'imposition, mais on est à 3,33% d'augmentation des budgets de fonctionnement. Donc, nous, ce que nous souhaiterions, c'est un effort massif pour tenir compte du contexte, et d'ailleurs du contexte où l'État, aujourd'hui gouverné par vos amis, admet lui-même que les collectivités locales doivent participer à cet effort national de réduction des dépenses publiques. Alors, autre chose, on se félicite aussi du coût porté, de l'augmentation portée au système associatif et aux associations. Monsieur le maire, reconnaissons-le ici, il n'y a pas un seul conseil municipal qui se passe sans qu'on nous propose une nouvelle association à subventionner. Je ne parle pas des anciennes, je ne parle pas de celles qui travaillent, qu'on connaît bien dans la ville et qui méritent évidemment d'être soutenues en partageant les efforts de tous, évidemment. Je parle de toutes ces associations nouvelles pour lesquelles vous avez proposé des subventions. La preuve, d'après vos calculs, 32%, d'après les nôtres, 38%, c'est-à-dire carrément 40% d'augmentation de l'argent doté aux associations messines, dont on voit bien que nous n'avons pas augmenté de niveau de vie de 40%. Alors je vois bien que ce soit un choix politique majeur de votre part que cette augmentation des associations, des subventions des associations. Je vous dis, monsieur le maire, il faut avoir la sagesse aujourd'hui de dire que le guichet est certes encore ouvert pour les associations qui existent, c'est pas ça mon propos, mais qu'on arrête de subventionner de nouvelles associations qui n'arrêtent pas de naître, hein, et sans doute qu'il suffit de se de se présenter avec le bulletin de naissance au guichet fiscal de la ville de Metz pour obtenir les subsides nécessaires. Alors, monsieur le maire, dans ce contexte, je voudrais vous dire que d'autres épreuves nous attendent. D'autres épreuves nous attendent, c'est d'une part le budget de fonctionnement du Métis, qui sera partagé, sur lequel aujourd'hui nous n'avons aucune information, et enfin le budget de fonctionnement de la salle des musiques actuelles, qui, comme je l'avais dit, et sans doute va sécréter des dépenses supérieures, et enfin forcément des dépenses de fonctionnement, pour faire fonctionner cette salle, alors qu'il y avait d'autres priorités et surtout d'autres manières de faire cette salle en restant à dotation constante. Bref, monsieur le maire, j'arrêterai là mon propos parce que je ne voudrais pas que vous caricaturiez notre position qui consiste, dès qu'on vous propose une dépense supplémentaire, à dire que nous sommes favorables à l'augmentation fiscale. Et c'est pourquoi je n'en ferai pas. L'année 2013 devrait être celle de la sagesse et où l'objectif principal devrait porter sur la réduction des dépenses de fonctionnement. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, d'abord, monsieur le maire, je voudrais vous dire que j'ai retrouvé à la fois le DOB de l'an dernier, mais également ce que je vous disais l'an dernier. J'avais commencé mon propos en disant que le DOB était très succinct et qu'il fallait vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination pour retrouver un petit peu ce que vous aviez envie de nous proposer. Alors, je veux remercier les rédacteurs parce que, si vous voulez, ils sont quand même en capacité, entre celui de 2012 et de 2013, de faire quand même un exercice qui est extraordinaire. C'est que l'an dernier, la faute était à l'État. L'État, bon, effectivement, malheureusement, c'était nous. Et alors, ne venez pas commencer à nous dire maintenant, cette année, tout va bien, on est d'accord et on a un héritage. Parce que ça, je l'entends à longueur de temps. Si vous voulez, OK. Bon. Sauf qu'il y a quand même, monsieur le maire, et vous l'avez souligné d'ailleurs, que ce soit l'an dernier, que ce soit cette année, vous avez souligné à la fois le contexte international. Alors moi, je salue quand même. Alors déjà l'an dernier, vous l'aviez dit, mais je dirais que vous le disiez en mettant l'accent sur le fait que, bon, en France, on était vraiment, vraiment beaucoup plus méchants et beaucoup plus restrictifs que dans les autres États, que le contexte international, voilà. Bon, là, cette année, on a un contexte international, un contexte national, où, effectivement, même vos amis qui sont au pouvoir reconnaissent, alors que, vous savez, comme l'a très justement dit Patrick Thiel, nous sommes dans une année où nous avons vécu une période électorale, où, à la fois, nous avons entendu des choses sublimes, où, c'est-à-dire tout ce que, même au niveau international, on pouvait dire, c'était des mensonges. Enfin, subitement, au bout de 6 mois, ce ne sont plus des mensonges. Et moi, qui sors aujourd'hui d'un débat budgétaire, je suis quand même sidéré. Parce qu'effectivement, eh ben, oui, on est dans un contexte international où on admet qu'il y a une crise. On admet qu'effectivement, aujourd'hui, on a de gros soucis, notamment au niveau de l'emploi. Donc, je crois, si vous voulez, que, monsieur le maire, ça doit nous apprendre aux uns et aux autres que, à droite comme à gauche, on doit être très humble par rapport à la situation économique dans laquelle on se trouve à un moment lorsque l'on est au pouvoir. Et essayer, je dirais, avec beaucoup d'humilité aussi, de ne pas faire de la politique politicienne, mais d'être en cap... Bon, écoutez, si ça vous fait rire, moi, je vais vous dire, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Parce que je vais vous dire, je crois que j'en ai assez entendu pendant les campagnes électorales et j'ai assez entendu de mensonges pour quand même être en capacité aujourd'hui de dire que je reconnais que les uns et les autres... que ce soit au gouvernement, que ce soit aujourd'hui dans les régions, que ce soit dans les conseils généraux, que ce soit dans les municipalités, les uns et les autres, on a la capacité, je dirais, d'être humble et de reconnaître qu'il y a effectivement un contexte national qui n'est pas facile à vivre et un contexte national où les politiques, et je le répète, de gauche comme de droite comme de gauche, je pense qu'on n'a pas joué forcément le jeu du travail en amont. Voilà. Je crois qu'on est peut-être aussi co-responsable à certains moments. Et je pense qu'il faut être en capacité, les uns et les autres, de le reconnaître. D'autre part, ce que je déplore dans celui de cette année, celui de l'an dernier, vous nous expliquez quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup interpellée et qui m'avait, je dirais, non seulement interpellée dans la mesure où c'était, disons, un contexte que je connaissais parce que, bon, ben, je suis aussi quand même au contact de la population, comme tout le monde. Et je regrette qu'aujourd'hui, dans le débat d'orientation budgétaire, on ne mette pas plus l'accent sur l'appauvrissement de la population messine. Et lorsque, en 2011, on mettait qu'un enfant mosellan sur 5 vivait dans un ménage pauvre, disposant de moins de 908 euros par mois, 30% des familles monoparentales mosellanes sont des familles pauvres, je crois, si vous voulez, qu'on avait face à nous une réalité qui, aujourd'hui, s'est aggravée. Et non seulement elle s'est aggravée, mais vous le soulignez très justement, il y a aujourd'hui non seulement des difficultés par rapport à l'économie en général, mais il y a une augmentation du chômage, il y a une augmentation des familles monoparentales. Et lorsque aujourd'hui on a, en tant que responsable et en tant qu'élu, de proximité, les rencontres que l'on a, on sait très bien qu'il y a un contexte messin d'accroissement de la pauvreté qui est une réalité. Voilà. Et ça, j'aurais aimé également le revoir dans votre rapport. Deuxième autre point, ce que je déplore dans votre rapport, lorsque je prends le cadrage et les conditions d'équilibre, vous dites « pas d'augmentation de la fiscalité locale ». Ben, heureusement. Je vais vous dire « non, mais il faut arrêter ». Bon, il y a quand même une différence entre la base et le taux. Donc, attendez, allez, arrêtez quand même de temps en temps de nous prendre pour des ânes. Et je dirais que, heureusement que j'ai lu certains articles qui disaient qu'on était peut-être dans un budget de fin de mandat. Mais enfin, bon, on a quand même dégusté... pendant un certain nombre d'années. Et, Monsieur le maire, je crois que je me permettrai simplement de dire que lorsque l'on dit qu'on essaye de ne pas être une ville endettée, etc., bon, moi, j'aurais quand même aimé, à un moment donné, et vous le faisiez au début, et là, je ne l'ai pas retrouvé, quand même retrouver le fait que, Monsieur le maire, lorsque vous arrivez aux manettes de cette ville en 2008, mais vous avez... Mais alors, je vais vous dire, disons, hein, mais alors, quelque chose de merveilleux à gérer. Vous vous rendez compte la capacité budgétaire que vous aviez à ce moment-là ? Monsieur le maire, vous aviez de l'or en main. Et je crois, si vous voulez, que là, il est certain que lorsque on a un héritage comme on l'a, et comme on l'a eu, la chance que l'on a eue lorsque on arrive aux manettes d'une ville, je pense que, si vous voulez, je dirais qu'à partir de l'année 2010, je pense qu'il y avait peut-être des choix différents à faire. Donc au niveau de la fiscalité, ce n'est pas un exploit. Et lorsque vous êtes classé dans un bon classement, mais attendez, monsieur le maire, comme je l'ai dit à maintes reprises, la ville de Metz n'a pas commencé à être gérée en 2008. Donc, à la fois, c'est vous, mais c'est aussi votre prédécesseur. Hein. Et je crois, si vous voulez, que là-dessus, moi, je souhaiterais quand même que vous soyez... Mais oui, monsieur le maire, vous soyez en capacité de, au moins... expliquer à vos jeunes collègues du conseil municipal que s'ils peuvent avoir peut-être, j'irais, des capacités budgétaires comme ils en ont dans certains domaines, ben, c'est parce que certains ont eu, disons, l'intelligence de thésauriser un moment. Voilà. Donc j'aimerais bien peut-être qu'on le redise. Et ça vous fait peut-être sourire, je vais vous dire, je l'ai toujours dit, et ça j'ai toujours reconnu, que celui qui arriverait au pouvoir en 2008 dans la ville de Metz avait quand même, devant lui de belles années et était en capacité, de dormir tranquillement pour l'ensemble de ses budgets. Voilà. Bon, la suite, ça sera peut-être pas aussi bien. D'autre part, comme mon collègue Patrick Thiel, je crois que dans une période comme celle-ci, au niveau du budget de fonctionnement, moi, je souhaiterais quand même que l'on ne se glorifie pas qu'il n'y ait qu'une augmentation de 3,63%. Je crois, si vous voulez, que le budget 2013, il n'est pas isolé dans l'ensemble des budgets, dans le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Il n'est pas isolé parmi ceux que l'on a eus depuis 2008. Je crois que c'est une continuité. Et donc, dans un moment où, effectivement, au niveau de l'État, et ce n'est pas nous, c'est vous, qui demandez qu'il y ait quand même une certaine pause dans les collectivités territoriales, le budget de fonctionnement aurait peut-être pu être à égalité par rapport à celui de l'an dernier. Voilà. D'autre part, ce que je souhaiterais vous dire également, c'est que au niveau de l'investissement, monsieur le maire, moi, je souhaiterais quand même qu'à un moment donné, on ait comme, comme devise de dire que la bonne gestion consiste vraiment à arbitrer entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises, et j'ose espérer que beaucoup de choses qui ont été entreprises soient terminées à la fin du mandat. Mais envisager aujourd'hui le palais des congrès, je me pose des questions. Et je souhaiterais vraiment que là, il y ait une réflexion avant que on prenne la décision de lancer ce projet. Également, monsieur le maire, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que j'aurais fait sans aucun doute des choix beaucoup plus liés à l'accompagnement de l'évolution et de l'accroissement de la pauvreté dans cette ville. Et sans aucun doute, je crois qu'effectivement, bon, vous avez fait des choix, ils vous appartiennent, et comme j'ai toujours dit, je respecte le vote des électeurs. Les électeurs vous ont choisi sur un programme, vous avez choisi, vous avez réalisé. Simplement, avec ce que vous aviez en votre possession, j'irais que j'aurais mis un tout petit peu plus l'accent sur l'accompagnement d'une population qui se précarise. Et même, j'ai lu tout ce que vous souhaitez réaliser, je lis tout ce que vous avez mis en œuvre, mais j'aurais souhaité qu'on accentue au moins pendant les périodes les plus dures de la crise, et je crois que c'est à la fois 2012, mais je pense que 2013 va, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République. Donc là, le président de la République a déjà averti que 2013 allait être encore plus dur que 2012. Donc j'aurais souhaité qu'il y ait peut-être un tout petit peu plus d'attention à l'accompagnement de la précarité et d'avoir, si vous voulez, une attention tout à fait particulière, non seulement à un poste qui, pour moi, a été vraiment très bien réalisé, qui a été celui de l'éducation, mais sur la réalisation de la précarité, sur la réalité de la précarité, je crois qu'on peut encore mieux faire, sans aucun doute, parce que vous me direz, on peut toujours mieux faire, mais je pense qu'il y a, au moment d'une période de crise, le choix que l'on doit faire, ça doit être d'abord celui d'accompagner et peut-être restreindre un tout petit peu d'autres investissements que l'on souhaiterait faire. Donc voilà ce que je souhaiterais dire et vous dire, monsieur le maire, que les uns comme les autres, et je le prends autant pour moi que ce que je vais vous dire, les uns comme les autres, nous devons être très humbles lorsque nous faisons de la politique et se dire que tout ce que l'on peut dire, il faut le mesurer à l'aune de ce qui existe et à l'aune de la réalité dans laquelle on se trouve, et se dire que les leçons qu'on peut donner aux uns et aux autres, on peut se les renvoyer à la figure très rapidement lorsque les uns et les autres sont en pouvoir. Merci, monsieur le maire.
Alors, monsieur Darbois.
Monsieur le maire, chers collègues, j'ai cru comprendre dans les propos de madame Zimmermann que nous aurions pu dormir tranquillement. Ça n'est pas le moment de dormir et je ne crois pas que nous ayons dormi du tout. Le monde économique est en crise, on n'arrête pas de le dire. Le dérèglement climatique s'accélère, tous les scientifiques sont d'accord. C'est vrai pour le monde, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la France. Le temps n'est-il pas aujourd'hui aux solutions? Et les solutions ne sont-elles pas en bonne partie à construire aussi au local? Si l'on répond oui à ces interrogations, monsieur le maire, chers collègues, cela nous donne ici, dans ce conseil municipal, une très lourde responsabilité et le moment du débat d'orientation budgétaire, une étape importante, puisque c'est le moment où le maire propose ses choix budgétaires publiquement et que ces choix sont discutés et partagés au grand jour. Ces choix, nous les voulons bien sûr et plus que jamais en harmonie avec le développement durable et solidaire. D'ailleurs, plus personne ne dit autre chose. Et ce n'est pas en partie ici, c'est-à-dire à l'échelle des collectivités locales, que nous préparons aujourd'hui un monde viable et vivable ou que nous laisserons à nos enfants un monde précaire et misérable. Nos choix sont donc déterminants pour le court et le long terme. Ainsi, les médecins nous demandent de gérer le quotidien et de faciliter la vie de tous les jours. Cela semble même une priorité. Mais ils nous demandent aussi, même si c'est moins évident, de préparer l'avenir à 10, 20, 30 ans et plus. Lorsque nous agissons sur le fleurissement, la propreté, la sécurité, la culture, le handicap, la démocratie, les nids de poules, le stationnement, le scolaire, le social pour partie, nous sommes, pour une bonne part en tout cas, plutôt dans le court terme, le quotidien, on va dire, hein. C'est important. Autrement dit, si la ville était sale, la politique de stationnement défaillante, s'il y avait des écoles délabrées, des cinémas fermés, ça se verrait et on nous le dirait. Mais lorsque nous agissons sur le développement économique, sur l'emploi, sur l'offre de transport, sur la précarité, sur la sobriété énergétique, les choix des ressources énergétiques, renouvelables ou fossiles, lorsque nous décidons des choix de grands équipements, de l'organisation des futurs quartiers, de la destination de nos friches, civiles ou militaires, du montage financier de ces équipements, etc., nous agissons bien sûr sur le long terme et ça ne se voit pas forcément immédiatement. Autrement dit, nous décidons aujourd'hui du quotidien de celles et ceux qui viendront après nous et bien après nous encore. Parfois, il faut expliquer que le dérangement de l'instant, les travaux du Métis par exemple, préparent l'avenir de la ville. Et en règle générale, c'est compris car on voit bien que la réorganisation intelligente du transport en commun facilitera la vie des habitants de l'agglo, permettra de baisser les émissions de gaz à effet de serre, permettra d'augmenter le pouvoir d'achat de celles et ceux qui se ruinent déjà aux pompes à essence et qui se ruineraient encore plus si nous n'avions rien fait. Que serait le pays messin en 2020 ou 2030 sans des moyens de déplacement performants et peu énergivores? Étendre le chauffage urbain afin de proposer de la chaleur produite localement à 60% renouvelable au maximum de foyers et d'entreprises, c'est préparer efficacement la raréfaction des énergies fossiles et c'est assurer une part de notre indépendance énergétique. peser très fort sur les promoteurs pour que dans les logements neufs, il y ait des parkings pour les vélos suffisamment grands pour que chaque membre de la famille puisse posséder au moins un vélo. C'est l'avenir et ce n'est pas un détail. Je n'ai pas l'intention, monsieur le maire, de détailler ici chaque décision que nous prenons. Mais trois idées fortes doivent toujours être présentes à notre esprit. Faciliter la vie du quotidien des Messins, c'est la moindre des choses. Préparer l'avenir et construire des équipements en harmonie avec le développement durable, avec l'écologie urbaine, en compatibilité avec nos ressources financières et notamment le fonctionnement. Et puis partager, mutualiser nos moyens avec d'autres collectivités locales. Car partager, mutualiser, c'est pouvoir faire mieux au moindre coût. Ainsi, lorsque nous avons décidé de nous lancer dans l'autopartage de concert avec Nancy, Vendeuvre et Thionville, et bientôt Épinal, nous démontrons que ce qu'une ville a du mal à réaliser seule est possible, toutes couleurs confondues, en mutualisant nos ressources financières et les énergies humaines. Ça, c'est intelligent et j'ose même dire nouveau. Et ce qui est démontré là avec l'autopartage, projet modeste mais efficace aujourd'hui, nécessaire demain, tend à démontrer que l'on peut partager des équipements de petite, moyenne et grande envergure avec nos voisins proches. Je pense notamment à Thionville et Nancy. De concurrents, nous devons devenir partenaires. Partager, mutualiser, préparer un avenir durable et solidaire, faciliter le quotidien, c'est notre travail d'élus. Bien sûr, la prudence, voire le discernement, est toujours nécessaire lorsque nous décidons de la création et du financement de grands équipements. Car il ne faudrait pas construire aujourd'hui ce qui ne serait pas utile ou ferait double emploi demain. Autrement dit, prudence, discernement, c'est ce qui ne signifie surtout pas réduire la voilure. Maîtriser la dépense, c'est notre politique. Je vous remercie.
Merci, M. Darbois. Mme Collin-Austerlet.
Oui, Monsieur le maire, je ne reviendrai pas sur la légèreté de ce document d'orientation budgétaire qui a déjà été relevé, mais c'est vrai qu'il faut quand même noter que depuis la présentation du débat d'orientation budgétaire 2011 et la découverte de la taxe sur l'électricité et des 1,9 million de recettes fiscales supplémentaires, et bien maintenant on a droit à des rapports opaques qui sont pleins de bons sentiments, hein, c'est ce que j'appelle la gauche bien-pensante, mais qui sont dénués de toute vision prospective et pragmatique. Alors, effectivement, un débat d'orientation budgétaire, c'est l'occasion pour l'équipe en place de tracer les grands traits de la ville qu'elle souhaite pour demain et l'occasion pour les élus d'en débattre. Alors, votre vision, je l'ai bien lue, c'est celle-ci, une ville de partage. L'année dernière, c'était le bouclier social. Cette année, c'est le partage. Alors, le partage de quoi ? Eh bien, je vais vous dire, le partage d'une ville qui souffre, le partage d'un ras-le-bol d'une ville sans dessus-dessous, le partage d'une ville qui se dégrade de jour en jour. Alors, moi, j'ai pris le parti de reprendre tous les items et tous les items que vous avez mentionnés. Bon, sur la situation internationale, ben, vous découvrez la crise, monsieur le maire, donc tant mieux, enfin, vous devenez un petit peu lucide. Et pour parler à nouveau, en quelques secondes, du gel de la dotation globale de fonctionnement, moi, je voudrais simplement rappeler ce que vous aviez dit les précédentes années sur les engagements de l'État. Alors, vous disiez l'année dernière, les autorités françaises ont pris le virage de politiques restrictives sur le plan budgétaire. Elles ont annoncé successivement des augmentations de prélèvements fiscaux et sociaux, ainsi qu'un plan d'économie budgétaire, sans prendre toute la mesure des conséquences de telles politiques avec une spirale des restrictions. Version 2012, pour le débat d'orientation budgétaire 2013, l'État a décidé d'associer les collectivités locales à cet effort de redressement avec la conclusion d'un pacte de confiance et de solidarité. Chacun appréciera, monsieur le maire, votre sens de la politique politicienne. Alors évidemment, vous me direz, le gel des dotations globales de fonctionnement, c'est bien sûr la faute du précédent gouvernement. On est obligé, on est dans un pays de plus en plus endetté, etc. Mais c'est bien connu. On succède toujours à des incapables et on est forcément, monsieur le maire, remplacé par des incompétents. Alors, maintenant, je voudrais simplement parler des orientations stratégiques, enfin, plus précisément, pour la ville de 2013, la ville de Metz en 2013, et au bilan que vous faites de votre action. Et là, je vais reprendre tous les items que vous avez développés. Augmenter encore le niveau de ville en maîtrisant les coûts. Alors, monsieur le maire, maîtriser les coûts. Est-ce qu'on veut nous parler des 950 000 euros de masse salariale supplémentaire, alors que vous parlez de maîtrise de la masse salariale et d'effectifs redéployés, voire réduits. L'an dernier, votre politique en matière d'emploi était axée sur l'embauche de personnel municipal, je cite, embauche de personnel municipal. On voit bien où cela mène. Budget 2011, masse salariale, 71,8 millions. Budget 2012, 73,5 millions, soit, avec cette décision modificative, plus 2,7 millions de masse salariale en un an. Voulez-vous également parler de la boîte à musique qui était annoncée au départ à 10 millions et qui est aujourd'hui passée à 15 millions ? Bien sûr. Et je ne parle pas, évidemment, de tout ce qu'on ne sait pas encore, et notamment du coût de fonctionnement dont Patrick Thiel parlait tout à l'heure. Voulez-vous parler des surcoûts liés au métis ? Voulez-vous parler du dérapage de la place Mazel, aujourd'hui chiffrée à plus de 9 millions, alors qu'elle était annoncée à 4,5 millions ? Voulez-vous nous parler, Monsieur Fonté, de la mutualisation annoncée de la culture à Metz avec la création de l'EPCC Metz en Seine, qui coûte aujourd'hui plus de 600 000 euros supplémentaires par an hors configuration de la boîte à musique ? Monsieur le maire, je suis désolée de vous le dire, vous allez dérapage en dérapage, alors que vous devriez effectivement maîtriser vos dépenses de fonctionnement, voire les diminuer. Vous parlez également de la police municipale. Vous en avez fait aujourd'hui une police de stationnement. Et ce sont vos décisions qui ont conduit à cela, notamment avec la suppression de la police de nuit, ce qui rend la ville, je le dis et je pèse mes mots, totalement insécure. Les policiers municipaux sont des gens extraordinaires, ce sont des gens courageux, mais qui répondent à la mission que vous voulez bien leur confier. Alors on dira que je crie au loup. Eh bien moi je m'en moque, car aujourd'hui je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Quant au nettoyage urbain, eh bien je suis heureuse de lire à nouveau que l'on va se doter de nouveaux moyens pour la mécanisation, parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Et j'aimerais également qu'on parle et qu'on s'intéresse à une entente peut-être un peu plus claire avec Metz Métropole Propreté. Je pense que ça pourrait sensiblement améliorer l'état des choses. Les services tournés vers les personnes. Alors j'applaudis évidemment dès demain pour la carte loisir et pour le pass senior qu'on vient de voter. Sauf que, puisque vous en parlez, le pass loisir, c'est un budget, en monnaie sonnante et très méchante, c'est 70 000 euros de dépensés, 150 000 euros de budgétisés, 70 000 euros de dépensés, soit 0,3% du budget du CCAS, parce qu'aujourd'hui, on est absolument incapable d'impulser la mise en place d'un vrai service de petite enfance pour les médecins. Et je suis désolée aussi là de m'en faire l'écho, mais c'est quand même le privé aujourd'hui qui s'installe à Metz. Je pense à la crèche People and Baby. Je suis tout à fait ravie de voir que le privé s'intéresse à Metz, mais enfin, c'est le privé qui est obligé de venir pallier les carences de la politique de votre adjointe. Et les médecins aimeraient bien savoir aussi où passent leurs impôts. Et si, peut-être, sûrement, dans le dérapage de 600 000 euros de la future et tant attendue crèche de l'amphithéâtre, qui a pris plus d'un an de retard, par manque de volontarisme et parce que maintenant, il faut faire vite et que tout soit fini, là encore, avant les élections. Or, cette précipitation a un coût, et le coût n'est pas des moindres. Quant à la précarité énergétique, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est vrai que vous plombez aujourd'hui les finances des médecins qui vivent dans des logements mal isolés, qui sont chauffés à l'électricité, avec la mise en place de la taxe sur l'électricité. Je le répète, 1,9 million de recettes supplémentaires pour attribuer 500 euros par an à 40 foyers pour entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Vous donnez un peu, mais un tout petit peu d'une main, et vous prenez bien plus d'une autre. Les subventions aux associations, on en parlait tout à l'heure. Alors c'est vrai que plus 40% aux associations, c'est quand même important. Il faut saluer ici le travail et l'investissement exceptionnel de tous les bénévoles qui font vivre et qui animent les quartiers. Mais je voudrais dire quand même que lorsqu'on voit une association comme Bouche à Oreille qui a perçu 130 000 euros de subventions municipales sur les deux derniers exercices budgétaires. Moi, j'ai rien contre cette association, mais enfin, je me pose quand même quelques questions. Est-ce que toutes les associations qui travaillent dans le cadre de la politique de la ville sont subventionnées à cette hauteur ? Moi, j'en connais d'autres, notamment à Borny. Je pense qu'il y a d'autres associations qui font un vrai travail et qui n'ont pas des subventions à cette hauteur. Et je ne pense pas, d'ailleurs, qu'elles doivent les avoir. Moi, je m'étonne de la hauteur, de l'importance de cette subvention. Enfin, vous nous parlez de la ville de demain. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on arrête d'être dans le concept, qu'on nous parle de l'attractivité de notre ville. Combien de cellules commerciales vacantes aujourd'hui ? Combien de cellules vacantes commerciales aujourd'hui à Metz ? Du travail de Metz Métropole Développement pour éviter cet état de fait, toujours rien sur la fameuse étude stratégique de développement économique promise par Thierry Jean et que nous attendons toujours 5 ans plus tard. J'aimerais qu'on nous parle des jeunes ménages qui quittent Metz pour s'installer en périphérie et des moyens que l'on entend mettre en œuvre pour y remédier. J'aimerais que l'on nous parle de ce que l'on compte faire pour que le centre-ville ne devienne pas moribond et ne devienne pas insécure après 17 heures. J'aimerais que l'on nous parle de l'animation de nos quartiers, du cadre de vie de leurs habitants. Et j'aimerais également qu'on me dise ce que l'on compte faire pour que nos enfants aient envie plus tard de s'installer dans notre ville. Alors la première des mesures, monsieur le maire, qu'il vous faut prendre, en tout cas je souhaiterais que vous la preniez, c'est de baisser la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est un facteur d'attractivité d'une ville. Et je vous demande solennellement de prendre en considération cette demande dans la préparation du budget 2013. Comme je l'avais déjà demandé l'année dernière, durant 3 années consécutives, vous avez augmenté la fiscalité. Je vous demande aujourd'hui non pas de faire mieux sans dépenser plus, je vous demande de faire au moins aussi bien en dépensant moins et mieux, en maîtrisant la dépense publique, en cessant ces dérapages incessants, en redéfinissant vos priorités à l'écoute de vos administrés, car leurs priorités doivent être les vôtres. Maîtrisez la dépense publique en vous fixant les objectifs prioritaires que je viens d'évoquer, qui correspondent aux attentes des médecins. Voilà ce que nous vous demandons pour le budget 2013. Et Madame Zimmermann en parlait, la revalorisation des bases fiscales vous permet aujourd'hui de diminuer sensiblement le taux de fiscalité et de revenir sur ces multiples augmentations d'impôts qui n'étaient pas justifiées. C'est ce que nous vous demandons ce soir. Je vous remercie.
Monsieur le maire, chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire se déroule dans un contexte économique et social très difficile et complexe pour nos concitoyens, contexte que nous n'avons pas connu depuis longtemps, contexte où inégalité et pauvreté ne cessent d'augmenter, touchant les jeunes, les seniors ainsi que de plus en plus de catégories sociales. C'est la crise, certes, mais les analyses concernant cette crise et la manière de s'en sortir sont différentes selon les positionnements politiques de chacun. En ce qui nous concerne, nous continuons à affirmer que le chemin emprunté par notre gouvernement et par l'Europe, à travers la signature du traité européen qui conduit à la réduction des déficits publics à marche forcée, n'est pas le bon choix. Cette politique d'austérité appliquée dans toute l'Europe aboutit fatalement à la récession. Aussi, la prévision gouvernementale d'une croissance du PIB à 0,8% pour 2013 est illusoire. Ces choix d'austérité mettent également à contribution les collectivités locales, alors que par leur investissement, elles jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'emploi et du développement économique. Alors, le document qui nous est présenté ce soir ouvre largement la discussion. La discussion ouverte sur le rôle, un peu minimisé, dans ce document, sur le rôle que joue l'industrie dans le développement économique de notre ville. Notre action ne doit pas se limiter à supporter les conséquences des derniers aléas de l'économie industrielle, mais au contraire, elle doit être offensive afin que ces industries puissent continuer à vivre et à se développer. En effet, Metz est dépendante de la chimie de Saint-Avold, de la sidérurgie de Florange et de l'automobile de Trémery et Borny. Discussion ouverte en matière d'évolution démographique. Metz perd des habitants, mais la perte a commencé avant notre arrivée. D'où l'urgence de mettre en place des dispositifs pour enrayer le déclin démographique. Discussion en matière d'emploi, qui malgré la crise résiste mieux à Metz, qui représente 5% de la population en Lorraine et 10% de l'emploi, mieux que dans le reste de la Lorraine. Et cette situation est aussi liée à tout ce que l'on a mis en place pour soutenir l'emploi. Discussion ouverte également en matière d'investissement réalisé. L'augmentation de 17% par rapport à la précédente mandature n'est pas étrangère à ces résultats, ce qui prouve bien que les affirmations répétées de certains membres de notre opposition qui nous accusent de tous les malheurs ne sont pas fondées. Au contraire, je dirais, heureusement que nous sommes arrivés. Ceci étant, cette situation est fragile et la crise qui risque de la fragiliser davantage nous oblige, et nous partageons ce qui est dit dans le rapport, à augmenter le niveau de ville. en développant encore plus nos politiques éducatives, et nous aurons un chantier important qui va s'ouvrir avec la mise en place des rythmes scolaires, nos politiques de solidarité, nos politiques culturelles et sportives, en poursuivant nos objectifs en matière de logement, de grands travaux, en poursuivant notre projet pour une ville de Metz attractive et rayonnante. Pour conclure, monsieur le maire, nous pensons aussi que compte tenu des derniers chiffres du chômage qui affichent une progression de 1,9% en un mois pour la Lorraine et de 2,2% pour la Moselle, il est important, je pense, et urgent d'envoyer encore plus de signes forts à nos habitants les plus en difficulté. Et je pense que nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises qu'en matière de précarité énergétique, nous faisons déjà, mais nous pouvons encore faire mieux dans le cadre du plan de rénovation thermique et devenir un modèle dans ce domaine. Et puis, compte tenu aussi des chiffres du chômage, nous devons faire également un effort supplémentaire en direction des demandeurs d'emploi qui sont 10 000 sur notre ville, dont 4 000 sont des chômeurs de longue durée, en encourageant et en soutenant des actions de formation en lien avec d'autres partenaires. Je vous remercie.
Monsieur le maire, chers collègues, je voudrais, avant d'entamer mon propos, revenir sur les propos de Monsieur Le Cadire et Monsieur Toulouse, qui parlent d'une gestion saine et performante et qui nous ont parlé du niveau de la fiscalité et de la maîtrise des coûts par le passé. Alors, vous me connaissez, j'ai un peu étudié le sujet et je vais vous donner les chiffres. Chiffres qui ont été validés par votre groupe municipal. Alors, au niveau des impôts et taxes, parce qu'on oublie souvent dans vos propos le mot « taxe ». Parce que certes, vous avez augmenté en 2 années consécutives les impôts, mais les taxes, ça a été une augmentation permanente sur les 5 ans. Alors, les impôts et taxes ont donc augmenté continuellement sur les 5 dernières années pour représenter aujourd'hui 12 millions d'euros de prélèvements supplémentaires sur les familles messines, soit une hausse de plus de 15%. Alors, on voit qu'au niveau de la fiscalité, il n'y a aucune maîtrise, mais aucune maîtrise. Alors, vous parlez de maîtrise des coûts de fonctionnement. Alors, j'ai regardé les dépenses de fonctionnement de la ville. Et alors là, c'est encore plus fort. Les dépenses de la ville ont régulièrement augmenté ces 5 dernières années pour atteindre une hausse, attention, de plus de 17 millions d'euros entre 2012 et 2008. Alors que l'inflation sur la même période était de 8,5%, on a donc un différentiel qui n'est pas expliqué par l'inflation de 5,6 millions d'euros de non-maîtrise, absolument aucune maîtrise des dépenses publiques. Et là, je crois que les médecins le constate, on a affaire à une gestion qui est calamiteuse. Alors, on peut regarder aussi l'inflation des dépenses de fonctionnement par habitant. Et là, on constate que sur la période 2008-2012, on a une hausse de 119 euros par habitant sur la période. Alors, 119 euros par habitant, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut la traduire en famille ou en foyer fiscal. Et là, on a une hausse en 5 ans de plus de 300 euros, ce qui est considérable. On peut continuer sur la non-maîtrise, les charges de personnel et frais assimilés qui ont augmenté de 6,5 millions d'euros. Et j'ai regardé un autre poste, parce que chaque année, vous nous parliez de baisse des dotations, des baisses de participation de l'État. Alors j'ai regardé comment ça avait évolué de 2008 à 2012, en comparant les chiffres. Et qu'est-ce qu'on constate ? Les dotations et participations reçues par la ville sur la période 2008 à 2012, ainsi que les produits des services du domaine et des ventes, sont restés stables. Elles n'ont pas ni augmenté ni diminué. Voici la vérité. La seule chose qui a baissé entre 2008 et 2012, c'est quoi ? C'est malheureusement la population messine qui a diminué de 2%. On a perdu 2537 habitants, soit un gros village, et là, c'est catastrophique. Donc, en 5 ans, monsieur le maire, vous avez créé réellement l'effet de ciseaux à Metz, en faisant augmenter plus vite les charges que les recettes. Quelque chose qui est vraiment le plus grave, c'est l'autofinancement, l'épargne brute. Alors je vais parler de manière simple, c'est que, en principe, les recettes de fonctionnement doivent être supérieures aux dépenses de fonctionnement pour financer l'investissement. En 2008, en retraitant du produit exceptionnel de la vente de l'UM, nous étions à 18 millions d'euros. Aujourd'hui, en 2012, nous étions à 12,8 millions d'euros, soit une baisse de plus de 6 millions d'euros de l'autofinancement, c'est-à-dire 33% de baisse de l'autofinancement. Vous avez augmenté les dépenses de fonctionnement de manière inconsidérante en faisant couler à flot l'argent du contribuable durant la pire crise économique et sociale que nous avons eue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est absolument pas normal, c'est une faute politique majeure. Vous avez, sans discontinuer, ponctionné de plus en plus d'argent en jouant à la fois donc les impôts et les taxes, mais à la fin, pour une famille messine, c'est plus de 300 euros qu'elle a de moins dans son pouvoir d'achat. Et là, est-ce bien raisonnable, alors qu'il y a tellement de Messins qui souffrent, est-ce vraiment bien raisonnable quand un Messin sur cinq est en dessous du seuil de pauvreté? Je crois que ça, c'est une faute politique majeure. Alors face à ce bilan qui remet l'église au milieu du village et qu'on voit qu'il n'y avait ni gestion saine, ni performance, on peut se demander ce que vous alliez faire en 2013. Nous pouvions nous attendre qu'à un changement radical de votre politique, c'est-à-dire que vous ne preniez conscience que le contribuable messin n'était pas une vache à lait que vous pouviez traire jusqu'au dernier litre de lait, mais que vous nous proposiez donc de lui rendre une partie de son pouvoir d'achat indûment ponctionné par ses hausses de taxes et impôts locaux. Malheureusement, votre orientation budgétaire 2013, elle ne va pas du tout dans ce chemin. Certes, vous commencez à utiliser mon vocabulaire et j'ai retrouvé mot pour mot les phrases que j'ai évoquées depuis 2008. Faire mieux sans dépenser plus. C'est ce que je vous dis depuis 2008. Faire mieux sans dépenser plus. Maîtrise des dépenses et des coûts. Oh, que c'est beau, quelle belle musique. On pourrait presque croire que c'est du Lobo dans le texte. Au niveau des chiffres, au niveau des pauvres chiffres que l'on a, de ce pauvre bilan, il n'en est rien. Vous nous proposez, en une seule année, l'année 2013, d'augmenter de 5,2 millions d'euros les dépenses de fonctionnement. Alors, tout le monde parle de 3,63%. Alors, comme ça paraît peu, mais c'est quand même 5,2 millions d'euros. Alors, j'ai regardé les hypothèses de prévision d'inflation pour 2013. Et les hypothèses d'inflation pour 2013, tout institut confondu, donnent 2% d'inflation. Donc, si on parle de maîtrise, on devrait voir les dépenses de fonctionnement au maximum d'une hausse de 2%. Et comme je sais que vous ne savez pas faire mieux, donc je me dis, tout ce qui est au-dessus de 2% est une non-maîtrise et un dérapage budgétaire. Alors, ça représente quoi, ces dépenses supérieures à 2%? C'est 2,3 millions d'euros de dérive budgétaire, monsieur le maire. Alors, pour les recettes, vous nous proposez une augmentation de 2,42%, alors que les bases, comme l'a dit Patrick Thiel, c'est 1,8%. Donc, il faut s'attendre à un nouveau matraquage fiscal, et je utilise ce terme parce que vous ne savez que matraquer le Messin. Vous allez matraquer le Messin, non pas par l'impôt, mais par les taxes. Du fait, et le pire dans tout ça, le pire, monsieur le maire, parce que avec vous, le pire n'est jamais décevant dans ce budget 2013. Parce que l'épargne brute, ce qui permet de financer, ce qui est le plus nécessaire, l'épargne brute, je lis votre document, l'épargne brute qui finance l'investissement baisse de 1,4 million d'euros, soit une baisse de 11% en un an de 2012 à 2013. C'est très grave, parce que en baissant l'épargne brute ou l'autofinancement, on va droit dans le mur. Et si je regarde par rapport à 2008, où nous étions à 18 millions et on atterrit à 11 millions, la baisse est considérable et on est dans un camion à forte vitesse, on voit le mur et le conducteur regarde à côté. Au-delà de la dérive budgétaire complète, comme les chiffres que je viens de vous donner le montrent, celle-ci aboutit pourtant à deux défaillances importantes dans les compétences majeures que sont celles de la tranquillité et de la propreté. Et monsieur le maire, vu le nombre de mails dont je suis en copie et dont vous êtes destinataire, vous ne pouvez plus ignorer que cette ville souffre d'un manque de tranquillité et d'un manque de propreté. Preuve en est, puisque le premier point d'intervention qui est cité dans ce débat d'orientation budgétaire concerne la police municipale. Alors ce qui est marrant, c'est que d'un conseil à l'autre, au mois d'octobre, je vous écris une question en vous demandant que les médecins souffrent de ne plus pouvoir dormir dans le centre-ville, qu'il y a un réel problème au niveau de la sécurité, et vous me sortez des statistiques dont on ne sait d'où elles sortent, et vous me dites, circulez, il n'y a rien à voir, tout va bien. Et maintenant, je lis page 5 de votre document, cette année, l'accent sera mis sur les problèmes d'incivilité et les nuisances sonores induites par une vie nocturne plus intense. C'est-à-dire que vous avez libéré la ville, vous avez organisé le désordre, mais aujourd'hui, ça manque d'ordre. Et vous avez essayé de remettre un peu d'ordre dans une ville sans dessus-dessous. Alors, monsieur le maire, tout ça pour dire que merci de garder un peu d'attention. Ah ben je comprends qu'on est asséné par autant de chiffres qui sont aussi graves. On se dit qu'on ferait mieux d'être dans l'opposition que dans la majorité. Ça, je comprends, mes chers amis. Venez nous rejoindre, on est bien au milieu. Alors, oui, c'est ça le constat. Les 2500 personnes qui sont parties, c'est la hausse des impôts qui les fait fuir. Aujourd'hui, mais si, mes chers amis, mes chers collègues, vous refusez de voir la vérité en face. Combien de jeunes ménages? Et Gilbert, tu le sais bien, tu as eu des contacts. Je veux bien que tu refuses ce soir de le dire, je comprends. Mais combien de jeunes ménages ont été obligés de quitter Metz et d'aller à Ban-Saint-Martin? On en a un ici de jeunes ménages qui a dû quitter Metz pour habiter Ban-Saint-Martin parce que ça coûtait trop cher en impôts locaux. Voilà, voilà la vérité. Et il est sur votre bon. Voilà. Mais alors, face à ce bilan de votre gestion communale des 5 dernières années, et face à une année 2013 qui va être épouvantable, je pense qu'il est important que vous changiez radicalement de politique. Parce que les médecins, chaque jour, se réveillent avec une gueule de bois dans une ville moins riche, moins attractive, moins belle, moins sûre. En ce qui concerne le budget d'investissement, monsieur le maire, alors là, c'est extraordinaire, c'est un feu d'artifice. De l'argent comme s'il en pleuvait, qui est investi dans des chantiers dont la justification n'est pas toujours évidente. Une ville sans dessus-dessous, une ville qui souffre, une ville que vous éventrez, des médecins qui n'en peuvent plus de vos travaux, des travaux dont les coûts dérapent complètement, comme l'a souligné Nathalie Collin-Osterlé. La BAM, dérapage de 50%, la place Mazel, dérapage de 80%. Certes, tous vos travaux peuvent donner l'impression de l'action, que vous vous occupez de la ville, mais il n'en est rien. C'est du bricolage, de la pagaille, c'est de la grande improvisation. Votre politique d'aménagement conduit à sortir toute forme d'activité économique du centre-ville pour qu'il gagne les activités en périphérie. Rien n'est fait pour le développement économique. Et je rejoins Daniel Bory. Je rejoins totalement. Viens nous rejoindre
moi,
au centre.
Pas moi.
Parce que tu ne peux plus rester dans cette majorité qui ne fait rien pour l'emploi. D'ailleurs, vous-même, vous l'écrivez. Vous l'écrivez, monsieur le maire, parce que le constat est accablant. Le taux de demandeurs d'emploi a atteint, dans la zone d'emploi de Metz, les plus de 10%, et dans certaines catégories, comme celle des personnes de plus de 50 ans, c'est pas moi, hein, je vous lis, hein, l'augmentation sur un an est de plus de 15%. C'est un constat d'échec patent. Alors, vous allez me dire, mais on a fait quelque chose. Monsieur Lebeau, on a fait quelque chose. On a donné de l'argent à Thierry Jean. Pas pour qu'il aille à Bon-Saint-Martin, non. Mais pour tout, pour qu'il fasse Metz Métropole Développement. 740 000 euros pour créer l'emploi. Mais quel emploi? Ça ne marche pas. Eh bien, comme ça ne marche pas, on continue. Parce que peut-être qu'un jour, ça va marcher, mais ce n'est pas en faisant des campagnes de pub, plutôt, enfin, je ne vais pas qualifier ce que je pense des campagnes de pub, mais quoi qu'il arrive, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil qui devrait servir l'emploi et le dynamisme économique, forcé de constater qu'il ne marche pas. En plus, cet outil est goinfré d'argent avec plus de 800 000 euros, et je vous propose de mettre dans le budget 2013, une subvention à hauteur de 100 000 euros à Metz Métropole Développement, qui pourra vider ses caisses où il y a plus de 800 000 euros, et on diminuera ainsi le budget de 800 000 euros, le budget des subventions, et tout ira bien. Un conseil, monsieur le maire, écoutez-le, il faut redonner le dynamisme de Metz capitale régionale. Pour ce faire, il faut travailler beaucoup plus avec nos voisins de la grande région et avec le Luxembourg. Et je sais que vous n'aimez pas le Luxembourg, puisqu'on m'a raconté une interview que vous avez faite, que vous avez donnée il y a quelques jours sur Luxembourg 2020. Et je peux vous assurer que toutes les personnes qui ont lu les épreuves de l'interview que vous avez donnée dans Luxembourg 2020 sont accablées des pensifs, des images d'Épinal que vous avez tenues sur l'image de Luxembourg, en critiquant ouvertement le Luxembourg. Comment voulez-vous travailler avec lui? Je crois que là, je peux vous assurer, tout le milieu économique, tout le niveau politique m'en a parlé. Et je crois que là, c'est très grave, les propos que vous avez tenus à l'encontre du Luxembourg. Dernier point, où on aurait pu croire que votre action socialiste allait œuvrer, je me suis dit, ils vont au moins un peu dépenser dans les quartiers. Il n'en est rien. Vous ne faites rien dans les quartiers. Mais vous dépensez dans des chantiers. Alors, aujourd'hui, vous nous proposez de dépenser 54,2 millions d'euros en 2013. Le problème de ces 54,2 millions d'euros, c'est que la cassette que vous a laissé votre prédécesseur, qu'évoquait Marie-Josée Zimmermann, le fait d'arriver en 2008 avec 60 millions d'euros dans les caisses. Ça arrive à peu d'hommes, à peu de maires. Ben, en 2013, la cassette, elle sera vide, puisque vous ne pouvez pas mettre plus de 16 millions dans le budget. Et que vous nous proposez d'avoir recours, alors ce qui me fait rire, c'est de manière mesurée, nous aurons recours à l'emprunt. On ne cite pas le chiffre, je vais vous le dire. 9 millions d'euros d'emprunt. Alors je vais vous dire ce que c'est 9 millions d'euros. On va simplement doubler le poids de la dette. Je veux dire, on double le poids de la dette comme s'il de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème, comme si nous n'avions pas de crise de finances publiques, comme si la vie, l'année 2013 n'allait être un long fleuve tranquille, comme si rien ne se passait. À Metz, la prospérité, tout le monde vient, c'est bien connu. Non, je crois que ce budget 2013 que vous nous proposez est déraisonnable. Au vu de ce qui se précède et ce que je vous ai dit, augmentation des dépenses supérieures à l'inflation et diminution forte de 11% de l'épargne brute et de votre promesse de campagne, rappelons dernier point, votre promesse de campagne, parce que M. Le Cadir a évoqué 90% des promesses tenues. Et moi, je suis sûr qu'il y en a une qui ne sera pas tenue. Une qui ne sera pas tenue. La dernière page de votre livret, elle vous marque au fer rouge, celle où vous êtes engagé à ne pas augmenter ni les impôts pour la ville, ni les impôts pour Metz Métropole. Deux mensonges en un, c'est ça l'effet de demi-gros. Donc, je vous demande, monsieur le maire, et je vous conseille d'aller dans la voie de la raison, c'est-à-dire de baisser les impôts et de rendre du pouvoir d'achat aux familles qui souffrent. Et je vous conseillerai de rendre notre ville plus attractive Et pour la rendre attractive, ça passe par la diminution des dépenses superflues. Et des dépenses superflues, il y a Metz Métropole comme budget, et on peut en trouver d'autres. On peut trouver la nuit blanche, on peut trouver votre budget de communication qui n'a jamais été aussi élevé, votre cabinet pléthorique qui n'a jamais été aussi élevé, et d'investir également dans la propreté, parce qu'on a une ville qui n'a jamais été aussi sale, d'investir dans la vie des quartiers, parce que les quartiers ne sentent pas l'action municipale. Et enfin, monsieur le maire, de remettre une police municipale la nuit, si vous mettez ça dans votre budget 2013, je vous promets, je le voterai dès demain. Je vous remercie.
Bien, ben chacun reprend son souffle. Je vous demande simplement 3-4 minutes d'attention. Je serai beaucoup plus court.
Merci, monsieur Etner.
Je vais essayer. Tout d'abord, je vous demanderai sur la forme de vous reporter à la première page du rapport et sur l'alinéa 1. Là, je trouve qu'il y a une petite erreur. Le DOB est une étape réglementaire incontournable du cycle budgétaire qui doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif prévu en décembre. Alors, on est à 30 jours.
Non, dans les 2 mois, ce n'est pas 2 mois avant, c'est dans les 2 mois, c'est indiqué. C'est une bonne remarque. Dans les 2 mois. Donc, on est dans les 2 mois puisqu'on est 1 mois avant.
Autrement, il fallait le repousser au mois de janvier.
Pardon ?
Autrement, il aurait fallu le repousser au mois de janvier.
Non, le budget doit être voté dans les 2 mois suivant le DOB. Eh bien, là, on sera un mois après.
Je crois que c'était minimum 2 mois.
Voilà. Non.
Bien, autant pour moi.
C'est ce que français veut dire.
Ouais.
Dans les 2 mois.
Sur le contenu, monsieur le maire.
Je vous en prie, monsieur Etner.
Donc, je prendrai des précautions un peu oratoires, mais j'aimerais bien que vous dispensiez de nous prendre un peu pour des neuneux. Je dis nous tous, dans cette enceinte.
Ça ne traverse pas l'esprit vous concernant, monsieur
Etner. En nous épargnant votre analyse et vos commentaires sur la situation internationale, mondiale, européenne, régionale, alors que, bon, nous sommes des élus très sensibilisés, on est abonné à toutes sortes de journaux, comme M. Lecadir, je lis aussi les Échos, je suis abonné au Point, au Nouvel Obs des fois, etc. Donc on est quand même un peu au courant. Non, mais c'est bien d'avoir des avis divergents. Bon, alors sur le fond maintenant, effectivement, j'ai souhaité intervenir sur ce rapport, parce que c'est un DOB, c'est essentiellement donc pour nous prévoir l'avenir de Metz l'année prochaine. Et j'avoue que je suis très inquiet, car dans cette enceinte, depuis que j'y suis à nouveau, je n'entends parler que de dépenses, des dépenses, et encore des dépenses, alors que nos concitoyens ne parlent que de crise, des crises, et encore de la crise, des gens qui sont RSA, qui vont au Resto du Cœur, qui, en résumé, comme l'a dit Marie-Josée Merman, un appauvrissement de la population, à Metz comme ailleurs d'ailleurs, c'est une situation un peu nationale. Et dans le même temps, dans ce même temps de crise, je constate que les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, en particulier, continuent à vivre sur leur train de vie habituel, comme si de rien n'était. Alors, monsieur le maire, l'argent va se faire rare. Et celui des contribuables est un bien si précieux qu'il convient de le dépenser à très, très bon escient. Quitte à décaler, je dirais, certains projets dans le temps. Personnellement, je vous dis ça parce que j'ai été élevé en politique à l'école de Julien Schwartz, président du Conseil général 82-92, et à celle de Jean-Marie Roche, qui étaient tous deux particulièrement économes des deniers publics, ce qui ne les a d'ailleurs pas empêchés de faire de grandes choses, et pour la Moselle, et pour la ville de Metz. Alors, monsieur le maire, malgré, je dirais, la poule aux œufs d'or que représente l'UEM, ne jouons pas aux riches, soyons très économes et vigilants, car la crise n'est pas encore derrière nous. Je vous demande juste d'y penser lors de la préparation du BP 2013 et de nous proposer des réductions de dépenses. Alors, je sais qu'il est certainement très avancé, ce BP, mais j'attends donc vos propositions pour le mois prochain. Merci.
Monsieur Hettner, de la qualité de vos propos et de votre concision. Alors, la parole est à monsieur Aldrin.
Monsieur le maire, je serai également court, car beaucoup de choses justes ont été déjà parfois dites lors de ce débat d'oration budgétaire, à l'exception peut-être de monsieur Le Cadir et monsieur Toulouse. Mais je voudrais quand même simplement dire que ce document d'orientation budgétaire, dans la lignée des précédents, est sans cap et sans vision. Vous tentez d'en acheter une en fin de mandat à travers la démarche MERS 2030. Cela est bien la preuve irréfutable que vous naviguez à vue depuis votre arrivée aux responsabilités en 2008. Alors oui, vous dépensez pour faire et refaire des réseaux, des pistes cyclables et des autres travaux. Vous voulez rénover la porte des Allemands sans même savoir quoi y mettre. Vous voulez être volontariste en termes de lutte contre la précarité énergétique en mobilisant des millions d'euros pour le patrimoine de la ville, les piscines, les gymnases, les écoles, qui représentent à peine 3% des émissions de gaz à effet de serre à Metz, et vous accordez dans le même temps, à l'inverse, quelques miettes budgétaires pour la précarité énergétique des logements des Messins, qui représentent, elles, 80% des émissions de gaz à effet de serre à Metz. Mais l'exemple le plus parlant pour illustrer ce pilotage à vue est incontestablement le dossier du Palais des Congrès. Voici un projet que vous reportiez en 2008. Revenant à l'étude en 2010, pour aujourd'hui être considéré comme important. Quel dommage de ne pas avoir écouté votre opposition à l'époque, nous qui préconisions, en 2008, de faire tout de suite le Palais des Congrès et non le Métis. Si cela avait été fait, aujourd'hui il n'y aurait pas une interrogation sur la capacité financière de faire le Centre des Congrès, qui est un projet important et vital économiquement parlant. Deux questions donc, monsieur le maire. Pourquoi ce projet n'est-il pas mentionné dans ce débat d'orientation budgétaire, alors que vous en avez fait récemment la promotion? Et pourquoi le point devant traiter de l'avancement du Palais des Congrès a-t-il été retiré de l'ordre du jour de ce Conseil municipal? Ces deux questions méritent, il me semble, une réponse claire, même si nous savons que votre majorité est profondément divisée sur le Palais des Congrès en raison des positions idéologiques de vos amis communistes et écologiques. Si le pilotage à vue est incontestablement votre méthode, sans cap et sans vision, vous appliquez dans le même temps une gestion dans la plus pure tradition socialiste. C'est votre droit. On aurait pu souhaiter et reconnaître une gestion plus pragmatique. Vous êtes dans la plus pure tradition socialiste. C'est votre droit. En revanche, ce qui est intolérable, monsieur le maire, c'est d'essayer d'être un parangon de bon gestionnaire maîtrisant les dépenses publiques. Alors, je vais me joindre à tout ce qui a été dit, mais c'est aussi l'enseignant en gestion qui parle pour qu'une bonne fois pour toutes, on arrête ces informations insincères, il n'y a pas d'autre mot, insincères, et comment voter un budget si nous avons des informations insincères? Maîtriser les dépenses publiques, c'est le gel pur et simple de ces dépenses en valeur. Baisser les dépenses publiques, c'est en valeur baisser la valeur des dépenses, et augmenter les dépenses publiques, ce que vous faites, c'est prévoir 5 millions d'euros de dépenses de fonctionnement en plus, tel que cela nous est indiqué dans le document. Donc, que les choses soient claires, que les choses soient clairement remises à leur place. Si cela, effectivement, est confirmé, et il le sera probablement dans le budget qui nous sera présenté le mois prochain, nous ne voterons évidemment jamais, dans le contexte budgétaire et économique actuel, un budget prévoyant un tel dérapage. Ne vous y trompez pas, monsieur le maire, si des agences de notation devaient évaluer la gestion des collectivités locales, elle sanctionnerait aussitôt et gravement la vôtre. N'ayez pas peur de réduire la voilure de Metz Métropole Développement. N'ayez pas peur d'arrêter d'embaucher des dizaines de contractuels. N'ayez pas peur de réduire votre communication. Et n'ayez pas peur aussi de reconnaître l'excellente santé financière laissée par votre prédécesseur. Votre bilan, contrairement à ce qui a été indiqué, c'est plus de dettes, plus de fiscalité et moins de cagnottes. Alors voilà, monsieur le maire, rapidement mes impressions à la lecture de ce document. Pas de vision et une mauvaise gestion. J'ai envie de dire en conclusion qu'il est vraiment temps que ce mandat s'achève pour Metz et pour les Messins.
Merci. Alors, madame Letty.
Oui, monsieur le maire, moi aussi, mon propos sera bref et assez ciblé, en fait. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Et c'est vrai que j'ai été très déçue à la lecture du document concernant le DOB, parce que j'ai été surprise de voir combien ont fondu les informations qui nous ont été fournies par rapport à ce que nous avions eu les années précédentes. Et je me constate qu'il faudra attendre le budget, par exemple, pour avoir plus d'informations sur vos orientations sociales. Or, c'est le CCAS qui reflète la mise en place de cette politique sociale de la ville. Et là, je suis déçue, j'en ai vu aucune vision, aucun aspect. Alors, je me suis livrée, et je vous livre quelques réflexions, sur deux parties essentiellement, la petite enfance et puis les seniors. Depuis le début de votre mandat, vous avez poursuivi une politique d'ouverture des structures petite enfance aux non-messins, par le biais de réservations de berceaux à des entreprises, mais surtout à des administrations messines. Et ceci m'amène à vous rappeler que c'est d'abord l'impôt du contribuable messin qui sert à financer ces structures et que nous avons toujours, toujours défendu le principe d'une priorité d'accueil des jeunes enfants messins. Principe que vous venez curieusement de réaffirmer lors de la révision du règlement de fonctionnement des structures de petite enfance du CCAS. Surprenant. Vous souhaitez attirer et maintenir en ville les jeunes ménages, mais qu'avez-vous à leur proposer ? Des places supplémentaires en crèche ? Oui, quelques-unes. Par contre, le prochain équipement collectif, le seul de votre mandat, la maison de l'enfance du quartier de l'Amphithéâtre, devrait ouvrir ses portes juste avant les élections de 2014. Et je vous rappelle que le chantier n'a pas encore commencé et que le coût a déjà augmenté de 500 000 euros. À croire qu'il n'y a aucun besoin en accueil, qu'il n'y a aucune liste d'attente à Metz. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, l'ouverture de crèches privées qui, elles, ont vite fait le plein de réservations. Qu'en est-il de votre politique au niveau de la politique des seniors ? Certes, le pass senior, voté en 2012, est intéressant. Je vous rappelle qu'il reprend quand même un projet qui a été prévu par l'ancienne municipalité, qu'il représente un budget à venir de 150 000 euros et qu'il a été lancé à grand renfort de publicité au cours des quatrièmes assises seniors. Mais doit-on limiter les actions auprès des seniors au culturel ? La crise qui touche l'ensemble de la population messine touche encore plus durement nos aînés qui, dans une grande majorité, doit faire attention à chaque sou dépensé. Et pourtant, vous n'avez pas hésité à cautionner les augmentations des loyers des foyers logements. Nous, je vous rappelle, nous avons voté contre. L'analyse des besoins sociaux fait apparaître à Metz une population vieillissante. En 2015, 23% de la population messine aura plus de 60 ans. En 2030, 26% aura plus de 80 ans et plus. Ceci implique d'avoir une politique marquée pour l'avenir en ce qui concerne l'hébergement. Quelles mesures ont été prises concernant les foyers logements destinés à accueillir des personnes valides de plus de 60 ans ? Que fait-on pour remédier aux nombreux problèmes de vacances constatés depuis plusieurs années ? Du fait de l'arrivée de personnes de plus en plus âgées dans ces logements, a-t-on envisagé leur devenir ? Leur transformation en établissement partiellement ou entièrement médicalisé, ou bien leur affectation à un autre usage ? Quelle réflexion y a-t-il eu concernant l'implantation de structures incontournables avec l'allongement de la vie, que sont les EHPAD ? Il y a un besoin urgent de diversification de l'offre d'hébergement des seniors, un besoin urgent de faire évoluer les structures existantes pour mieux répondre à la demande de la population dans les années à venir. Voici, Monsieur le maire, quelques réflexions que m'ont inspiré ce DOB. Et comme l'a dit Monsieur Toulouse, il faut préparer l'avenir, et l'avenir, c'est demain. Je voudrais juste rajouter que nous sommes en novembre et que nous n'avons pas voté en conseil municipal le budget 2012 du CCAS. Je vous remercie.
Oui, merci, Monsieur le maire. Mes premiers mots iront également en direction du site industriel de Florange. L'avenir de Florange se décide dans les prochains jours. Pour notre part, nous souhaitons une nationalisation du site. Nous considérons en effet qu'il faut dans ce pays une autre politique industrielle. La Lorraine a perdu 50 000 emplois industriels ces 10 dernières années et je pense qu'une réelle maîtrise publique est nécessaire pour défendre notre outil industriel. Je crois que l'histoire de la Moselle est directement liée à l'industrie et donc l'histoire de Metz est également liée à l'industrie. Cela étant dit, c'est notre premier débat d'orientation budgétaire. depuis que nous avons enfin tourné la page de 10 années de droite. 10 années marquées par de nombreuses attaques contre le monde du travail, mais également contre les collectivités territoriales et notamment leur autonomie financière. Mais cette politique a été battue. À Metz, comme dans tous les pays, les Françaises et les Français ont choisi le changement. Certes, un changement mesuré, raisonnable, modeste, mais un changement tout de même. Or, pour des millions de Françaises et de Français, nous avons le sentiment que ce changement tarde à venir. Sur la question européenne, on ne peut pas dire que le changement a été mis à l'œuvre, puisque le gouvernement a ratifié le traité Merkel-Sarkozy avec les voix de la droite, sans consulter le peuple français. Traité qui renforce les logiques d'austérité. Nous avons, y compris au niveau encore gouvernemental, une politique qui parle tout le temps de compétitivité et qui affirme que le coût du travail serait responsable des difficultés rencontrées. Et c'est vrai que depuis des années, on a mené des politiques qui visaient à baisser le coût du travail avec les résultats que l'on connaît. Le gouvernement envisage de faire un cadeau de 20 milliards d'euros en crédit d'impôt aux entreprises, alors que dans le même temps, il n'a augmenté le SMIC que de 0,6% et il a gelé les dotations aux collectivités locales. Cela s'inscrit malheureusement plus dans la continuité que dans la rupture. Certes, je ne confonds pas la politique actuelle et celle d'hier. Il me semble pourtant que le président Hollande ait oublié ce que déclarait le candidat Hollande quand il ciblait la finance comme son ennemi. Au lieu d'entreprendre cette grande réforme fiscale dont les collectivités territoriales ont le plus grand besoin, le gouvernement reprend malheureusement à son compte le dogme de baisse de dépenses publiques en demandant aux collectivités territoriales d'en être solidaires. Monsieur le maire, le document mentionne l'idée que l'État associe, je cite, les collectivités à l'effort de redressement. Je n'ai pas, moi, la même compréhension du terme « association ». Je pense qu'il s'agit plutôt d'une contrainte qui peut et qui va encore s'accentuer et qui va poursuivre cette logique d'austérité. 12 milliards de dépenses publiques dès l'année prochaine, c'est l'austérité. Et on sait ce à quoi peut conduire les baisses de dépenses publiques, CF la Grèce et d'autres pays dans la même situation. Peut-être que M. Lebeau devrait faire un petit voyage en Grèce. Pourtant, nous savons tous ici, au moins à gauche, que la dépense publique est utile. C'est grâce à cette dépense publique que nous pouvons construire et gérer des crèches, faire fonctionner la restauration scolaire, être plus solidaires avec les difficultés, avec ceux qui sont en difficulté avec le CCAS, entretenir notre patrimoine, avoir une politique culturelle et des services publics de qualité. Les élus communistes sont plus solidaires des gens qui subissent la crise que de cette volonté de redresser les comptes publics sans toucher à la cause des déficits, c'est-à-dire les réductions d'impôts accordées aux plus riches et les autres cadeaux fiscaux aux entreprises. De la même façon, les dotations aux collectivités sont des dépenses publiques utiles. C'est pour cela que nous sommes très inquiets du gel de ces dotations. De 2013 à 2015, c'est une perte de 7% en euros constants. Quelles en seront les conséquences pour notre ville? Il n'y a pas d'un côté le mauvais gel de droite et le bon gel de gauche. Ça ne marche pas. En ne revenant pas sur les mesures de droite. Monsieur Lebeau, ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas. Non, 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 et je ne vous autorise pas à me tutoyer. OK ? Hein ? Nous ne sommes pas du même monde. Oui. Vous êtes de l'autre côté de la barrière s'agissant de la lutte des classes. Moi, je défends le monde du travail, vous défendez les intérêts du capital. Et je vous mets au défi de débattre avec moi publiquement sur cette question.
Sans problème.
Oui. Bon, laissez-moi terminer maintenant. Nous devons nous afficher...
C'est moi qui donne la parole, c'est pas Monsieur Lebeau. Allez-y, Monsieur Marchand.
Nous devons afficher l'ambition de maintenir un haut niveau de service public. Pour notre part, nous considérons que les agents qui travaillent au service de la collectivité, Monsieur Lebeau, ces agents-là sont une richesse, ils ne sont pas une charge. Ils ne sont pas une charge. Et Je suis malheureusement réservé sur la volonté affichée, c'est marqué dans le document, de réduction de masse salariale. Les efforts de rationalité ont leurs limites et n'améliorent que très rarement le service rendu à la population. Monsieur le maire, il nous faut aussi être beaucoup plus exigeants vis-à-vis de l'État pour qu'il compense à l'emploi près les conséquences des restructurations militaires. Mais aussi, d'une façon plus générale, la ville est victime de la RGPP qui malheureusement se poursuit. Et chaque emploi public qui est supprimé à l'hôpital, dans l'administration, a un impact négatif pour notre ville. Le maintien et le développement de l'emploi public est essentiel pour notre activité économique. Les élus communistes souhaitent que la gauche réussisse, ici comme au gouvernement. Mais qu'elle réussisse sur des bases de gauche, c'est-à-dire de justice, d'égalité et de solidarité. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Maréchal. Madame Palaise.
Monsieur le maire, mes chers collègues, avant de débuter mon intervention, je tenais à remercier les fonctionnaires municipaux qui ont contribué à la réalisation de ce document qui nous permet aujourd'hui de débattre. Le débat d'orientation budgétaire est un grand moment pour notre municipalité car il nous permet de présenter nos priorités pour les Messins et encore une fois d'en débattre. Notre projet municipal s'appuie sur un équilibre dynamique pour avancer. Nous construisons la ville de demain et nous travaillons chaque jour pour les Messins pour améliorer leur vie quotidienne. En 2013, comme pour l'exercice qui s'achève, nous voulons poursuivre nos efforts pour faire face à la crise et mettre en œuvre un budget solidaire. Cette solidarité, nous la transcrirons de manière tangible dans l'ensemble des politiques publiques que nous menons. Un budget solidaire, c'est pour nous plusieurs priorités que nous voulons continuer à mettre en œuvre en 2013. Nous continuerons à mettre l'enfant au cœur de nos préoccupations et de nos politiques municipales. Nous nous engageons à construire un projet éducatif local pour plus de qualité, plus de cohérence, plus d'efficacité. Et nous vous proposons d'initier dès cette année ce travail autour d'actions en faveur de la parentalité sur toute la ville. Nous voulons nous attaquer fermement aux problématiques de l'errance, en particulier celle des jeunes et de l'accompagnement des 18-30 ans, en partenariat avec tous les autres acteurs sociaux qui œuvrent dans la ville, et des mesures concrètes seront annoncées au cours de l'année 2013. Nous amplifierons notre politique en faveur des seniors, en développant les réseaux de proximité avec les commerçants et le monde associatif, en favorisant les déplacements de nos aînés, en veillant à leur tranquillité. Nous voulons être moteurs de la mise en cohérence de tous les projets concernant l'insertion socio-professionnelle et l'emploi sur la ville. Nous serons une ville exemplaire en matière de dispositifs visant l'insertion et l'emploi des jeunes en particulier. La lutte contre la précarité énergétique est aussi notre priorité au travers d'actions visant à réduire la fracture énergétique. Des partenariats sont engagés avec les fournisseurs d'énergie, avec les bailleurs sociaux, avec Metz Métropole et d'autres acteurs. Nous les développerons et nous traduirons en actions concrètes au plus proche des problèmes des Messins. La culture pour tous et la culture pour chacun, c'est aussi un axe fort d'une politique de solidarité. Des expériences ont été conduites dans le cadre du pôle solidarité pour permettre à ceux qui en sont les plus éloignés, qui sont les plus éloignés du monde de la culture, d'y trouver des repères pour mieux s'en approcher. Nous les développerons et en ferons un axe important de développement social. Enfin, la santé est aussi un axe incontournable d'une réflexion pour la ville. C'est par ailleurs une des préoccupations principales des Français. Nous travaillerons en partenariat avec la CPM pour offrir de nouveaux services autour de la santé aux Messins. Autant d'engagements pour continuer à déployer notre bouclier social pour protéger les Messins des effets désastreux de la crise. Ces actions, ces dispositifs, c'est dans la proximité, dans les quartiers que nous voulons les développer pour construire encore le mieux vivre ensemble. À Metz, depuis 2008, nous construisons la ville au plus proche des Messins, pour une ville en dialogue et pour une ville en partage. Je vous remercie.
Merci, madame. Monsieur Thierry Jean.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je serai bref. Beaucoup de choses ont été dites. Je crois qu'aujourd'hui, on est confronté à deux problèmes, celui de l'emploi et celui de la démographie. Tout le reste relève de la polémique. Et si on en est là aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on nous y a bien aidé. L'effet sur l'emploi et sur la démographie des restructurations militaires commence à se faire sentir Il ne faut pas le perdre de vue, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose d'extrêmement brutal. Hein. On a connu des crises dans cette région, mais c'est la première fois que l'impact est absolument direct, y compris dans la vie de tous les jours, parce que c'est jusqu'au boulanger, hein, ou les gens qui sont partis n'ont pu acheter leur pain. Ce ne sont pas des gens qu'on met au chômage ou en pré-retraite, ce sont des gens qui partent. Et j'ai toujours considéré qu'on sous-estimait énormément l'impact de ces restructurations. Hein, je suis personnellement convaincu que tous les chiffres qui ont été donnés sont sous-estimés. C'est entre les achats des militaires et les achats des structures, donc des régiments, des unités, hein, eh bien, c'est une perte sèche pour notre aglo de l'ordre de 120 à 150 millions d'euros. Je voulais simplement le rappeler. Alors, le mot clé pour s'en sortir, c'est celui d'attractivité. L'attractivité, c'est quoi? Eh bien, ça passe d'abord par la qualité de vie, ça passe par la culture, ça passe par le social, ça passe par des infrastructures de transport. Donc, ça passe aussi bien par des investissements que par du fonctionnement. Et l'augmentation des charges de fonctionnement, ce n'est pas une dérive. Quelqu'un s'est permis d'évoquer le train de vie de la municipalité. Je tiens à m'inscrire totalement en faux par rapport à cela. Hein, nous avons... Si, ça a été dit. Ça a été dit. Le terme de train de vie a été prononcé. Si. Eh bien, sachez que, il ne le dira peut-être pas lui-même, mais sachez que le maire de Metz conduit la gestion de cette maison avec une rigueur extrême qui va, et qui, à mon avis, je dirais, j'en ferais pas autant si j'étais à sa place. Hein. Non. Et monsieur Lieuger non plus. Non, mais sérieusement, aujourd'hui, donc, lorsqu'on parle de dépenses de fonctionnement, on parle aussi de soutien aux associations qui font la qualité de vie dans les quartiers. Hein. On parle de choses qui sont complètement vertueuses. On parle de choses qui luttent contre la pauvreté. Vous l'évoquiez, Madame Zimmermann, c'est une réalité. La pauvreté, ce n'est pas un problème messin, c'est un problème dans ce pays. Et il est de notre devoir moral de le prendre en compte. Alors, la qualité de vie... Alors, la fiscalité, oui, bien sûr, c'est un facteur d'attractivité, la fiscalité. Et je suis très, très fier. D'ailleurs, c'est écrit dans le document, hein, quand on dit que la taxe foncière sur l'immobilier professionnel, que nous sommes les meilleurs de France, c'est un élément d'attractivité, ça. Donc, notre fiscalité est un élément d'attractivité. Ça aussi, ça mérite d'être dit. Je terminerai sur deux choses. Alors, l'investissement. On en fait trop, on investit à tire-larigot, ai-je entendu. Bon, d'abord, l'investissement. Quand il s'agit, pour une collectivité, d'investissement qui est principalement réalisé en travaux, hein, mon ami Richard abordera tout à l'heure le montant considérable des investissements que représentent nos zones d'aménagement. L'investissement, lorsqu'il est principalement en travaux, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi. Hein, derrière 54 millions d'euros d'investissement, il y a plusieurs centaines. Bon, on peut globalement les achats de la ville, hein, parce que les achats d'investissement et de fonctionnement entretiennent, je pourrais le développer, mais on n'a pas le temps, justifient sur l'aglo de l'ordre du millier d'emplois. Faut le garder présent à l'esprit. Et puis l'investissement, c'est aussi un facteur de rayonnement. Hein, quand on fait la boîte à musique, quand on fait le Métis, quand on fait le Palais des Congrès, eh bien, on contribue au rayonnement de la ville, donc à son attractivité. Et je terminerai sur le Palais des Congrès. Palais des Congrès. Alors d'abord, je voudrais pas être celui ou celle qui va écrire le paragraphe Palais des Congrès du programme de la droite unie à Metz 2014, hein, parce que ça me paraît un peu compliqué de cerner une position. Hein. Oui, absolument. Alors, non, mais comme d'aucuns disent qu'il faut freiner et d'autres qu'il aurait fallu accélérer, ça ne relève pas d'un pilotage à ma portée en termes de compréhension. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas, moi je ne comprends pas, hein, je ne mets personne en cause. Bien. Donc le Palais des Congrès, il n'y a jamais eu de tergiversation. Le Palais des Congrès, c'est un investissement important, c'est un investissement de l'ordre de 60 à 70 millions d'euros. Nous sommes convaincu qu'il faut le réaliser. Toute la majorité municipale est convaincue qu'il faut le réaliser. Le président de l'agglo est convaincu qu'il faut le réaliser. Et le président de l'agglo en a fait voter le principe. Aujourd'hui, nous travaillons sur le meilleur montage qui soit. Le département de la Moselle souhaite être associé au projet, ce qui justifie non pas des tergiversations, mais des approfondissements. Et c'est pour ça que le maire de Metz a jugé que, compte tenu d'ailleurs d'un ordre du jour fort chargé, hein, on pouvait décaler de quelques semaines le débat, parce que moi j'explique toujours dans mon métier à mes équipes qu'ils doivent dissocier l'urgent et l'important. Le palais des congrès, c'est important, donc il faut admettre qu'il puisse être décalé de quelques semaines pour mieux faire. Voilà, je vous remercie.
Alors, dernier orateur inscrit, Monsieur Lioger.
Merci Monsieur le maire, chers collègues. Thierry Jean a raison de rappeler les deux fondamentaux qu'il vient de rappeler, à savoir l'emploi et la démographie. Il se trouve qu'on ne s'était pas concerté, mais que je vais essayer de développer effectivement comment, de manière détaillée, les investissements dans les ZAC répondent à ces deux préoccupations fondamentales qui sont celles de, je dirais, de toute mairie. Mais tout d'abord, je voudrais répondre aussi à un certain nombre d'interventions qui ont été faites. Il aura fallu attendre quand même un petit moment pour que Mme Zimmermann et M. Thiel, alors qu'ils nous avaient expliqué pendant 4 ans qu'il ne fallait pas parler de politique nationale, il est vrai qu'il y a tout lieu de nous rappeler que depuis 6 mois, nous sommes les socialos écolos sont responsables du désastre dans laquelle la France est actuellement. Alors je les remercie au moins pour une chose, c'est qu'ils ne nous ont pas parlé de la coco-e, et je les en remercie vraiment. Et dans ce contexte, il aura fallu aussi attendre 4 ans pour voir Madame Zimmer...
S'il vous plaît.
Il aura aussi fallu attendre 4 ans pour voir Madame Zimmermann chanter les louanges de Monsieur Roche, qui, je le rappelle, a quand même augmenté de 18% les impôts en 1983. Donc, voilà. Alors...
Et vous dites qu'ils n'ont jamais augmenté.
On nous a parlé... Alors, une chose plus sérieuse, si vous voulez bien. Chose plus sérieuse, c'était juste pour vous mettre un petit peu en bouche. Chose un petit peu plus sérieuse, si vous le voulez bien, cette question de l'épargne que, justement, M. Roche nous aurait laissée. Mais qu'est-ce que vous voulez bien qu'on fasse d'une épargne? Vous voulez qu'on la garde ad vitam aeternam?
Pourquoi il y aura plus?
Vous croyez qu'on peut emporter, comme aurait dit la grand-mère de Mme Aubry, l'épargne dans sa tombe? L'épargne, elle sert à investir, et c'est ce que nous faisons.
Ah oui.
Donc je ne comprends pas un seul instant les interventions de ma droite et de ma gauche, des deux oppositions, quand ils nous parlent sans cesse de l'épargne. Cette épargne, elle sert à investir, et nous investissons avant, avec. Et je pense même que M. Roche, avec cette épargne, s'il avait été réélu, à Dieu ne plaise, il aurait aussi investi. Donc arrêtez de nous dire que cet argent, il fallait le thésauriser, il fallait le garder. Je ne comprends pas un seul instant vos interventions à ce sujet. Ou alors si on suit Monsieur Lebeau, on ne vous a jamais interrompu.
Mais Thiel a dit qu'il fallait pas que le maire réponde, alors faudrait savoir.
Est-ce qu'on peut laisser parler l'orateur?
Non.
Oh, mais Thiel a dit qu'il fallait pas que le maire réponde.
Je ne suis pas d'accord.
Mais vous avez dit des tonnes de conneries vous-même.
Monsieur Lioger, alors, nous avons écouté tous les orateurs et nous allons écouter Monsieur Lioger.
Mais Madame Zimmermann,
vous manquez totalement de respect.
À chaque fois que vous faites des explications de vote. Mais bien sûr que si, vous le faites. Et on va le voir tout à l'heure.
Madame Zimmermann, nous allons écouter religieusement tout le monde.
Voilà.
Eh bien, vous allez pouvoir écouter Monsieur Lioger.
Attendez, c'est pas une leçon. Vous n'arrêtez pas d'intervenir sur l'épargne. Je vous demande, qu'est-ce que vous auriez fait de cette épargne? Bon, ben voilà, c'est tout. À moins
Continuez.
à moins que si vous me laissez parler, je comprends que ça vous gêne, je comprends que ça vous gêne et que vous m'interrompiez. Je le comprends.
Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît.
À moins que M. Lebeau, j'étais absent au dernier conseil municipal, nous explique qu'il fallait racheter 14 millions ou un peu moins, 10 millions, 11 millions, le CHR et faire un espace vert. Alors là, c'est une utilisation possible, effectivement, de l'épargne des mécènes.
Exact.
Nous n'avons pas, nous non, n'avons pas d'intention.
Il ne faut pas être absent. On vous a mal reporté mes propos.
C'est incroyable, ça.
Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. Tout le monde a écouté tout le monde. Il faut écouter.
Attendez,
Monsieur Lioger.
Mais vous nous en donnez sans cesse des leçons. Mais vous nous en donnez sans cesse des leçons. Nous n'avons pas l'intérêt. Ouais, c'est une manière de concevoir la démocratie, de continuer à parler pendant que...
Monsieur Lioger a la parole, s'il vous plaît. Il faut écouter Monsieur Lioger maintenant.
Nous n'avons pas l'intention de faire une pause dans l'investissement, car je vais le montrer, l'investissement, c'est l'emploi. Et l'emploi, Madame Zimmermann, c'est encore la meilleure manière de lutter contre la pauvreté. Cette ville ne souffre pas, elle se développe, elle se rénove... Elle s'apprête à accueillir de nouveaux habitants. Et comment faire tout ça sans travaux ? Je voudrais bien que vous m'expliquiez un jour. Le DOB, monsieur le maire, chers collègues, est l'occasion de faire le point justement sur nos investissements. Non seulement en 2013, mais aussi depuis le début de ce mandat. La politique volontariste qui a été la nôtre depuis le début, là où certains, justement, auraient voulu qu'on s'endorme, qu'on s'arrête, est particulièrement bien illustré, me semble-t-il, dans les différentes ZAC. La ZAC de l'amphithéâtre, vous pouvez voir une halle qui va être livrée bientôt, un immeuble de 30 000 m² B2 qui est terminé. Vous pouvez voir commencer Bouygues et les maisons Rison rue Lothaire, 34 000 m². Et à venir 80 000 m² avec le fameux B3C3 et le projet de Muse, au point que cet investisseur nous a gratifié, la presse en est fait écho, d'une très belle présentation au MAPIC, au regard d'ailleurs de l'Europe entière. Je voudrais dire que Metz rayonne par l'investissement public et par l'effet levier que cet investissement public, j'essaierai de le démontrer si vous me laissez parler, produit sur l'investissement privé. Et la semaine prochaine, avec mon collègue Thierry Jean, nous tiendrons un stand tout entier à l'honneur du dynamisme économique de Metz, au CIMI, devant, là encore, l'ensemble des investissements et des investisseurs européens. Cela correspond bien à des investissements publics. Et tout à l'heure, je vous proposerai, et vous verrez que sur les 160 millions de budget de la ZAC de l'amphithéâtre, la ville de Metz participe pour plus de 30 millions d'euros, permettant un effet de levier qu'on estime à 5 fois plus. L'investissement privé, on le dit souvent, par exemple, réalisé pour le projet Muse, est un investissement privé de 200 millions d'euros, qui est justement permis grâce à l'investissement public. Pour aller vite, la ZAC des Coteaux de la Seille, là aussi, vous pouvez y voir des grues. Et pas simplement des animaux, mais des vraies grues. Des emplois dans le BTP, j'y reviendrai. L'investissement de la ville, 5 millions d'euros sur un budget total de 30 millions d'euros. Les Sansonnets, la ZAC du Sansonnet commencera début de l'année prochaine. Avant d'ailleurs voir justement de nouveau des grues tourner, nous avons investi 1 million d'euros dans un parc que je considère comme magnifique et dont tout le quartier va profiter. C'est aussi des opérations de rénovation urbaine dans le sens, effectivement, de la réhabilitation des quartiers. Et Dieu sait si ce quartier de Metz-Nord en avait bien besoin. Donc 1 million investi déjà sur les 12 millions. 2013 sera l'année du début du Sansonnet avec 35 logements que nous avons vus dernièrement en CMU et bientôt les logements sociaux de l'OPHLM et ainsi que de petits promoteurs. Je profite pour dire que nous avons ouvert aussi la promotion immobilière aux petits promoteurs, à la différence des investisseurs qui étaient plutôt des gros promoteurs sur la ZAC de l'amphithéâtre. La place Mazel, il en a été question, et c'est dommage que Mme Collin-Osterlet ne prenne pas la peine de m'écouter, puisque je l'ai écoutée, je dirais religieusement, sera inaugurée samedi, et elle représente 6 millions d'investissements. Alors, il se trouve Je vais répondre à ça, je vais répondre. Le périmètre initial de la ZAC de l'amphithéâtre, c'est 5,7 millions. Je vous rappelle que vous l'avez voté en conseil municipal du 3 mars 2011. Qu'est-ce que j'ai dit ? De la place Mazel, pardon. Le périmètre initial, c'est 5,7 millions et vous l'avez voté le 3/03/2011. Le coût réel, actuellement, s'élève à 5,9 millions. Alors, évidemment, si vous rajoutez le boulevard Maginot, vous montez à 6,5 millions. Si vous rajoutez le périmètre incluant la promenade de la Basse-Seille, on arrive à 9,2 millions. Mais vous pouvez aussi rajouter, tant que vous y êtes, l'avenue de la Seille. Là, on arrive à 20 millions. Et vous rajoutez la ZAC de l'amphithéâtre. Là, on est à 200 millions. C'est une opération intellectuelle de malhonnêteté de faire une addition de l'ensemble des opérations immobilières, pardon, d'aménagement qui sont faites autour de la place Mazel. La place Mazel a connu un dérapage de 200 000 euros.
Si vous voulez bien, laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. Nous avons écouté religieusement M. Lebeau pendant 25 minutes. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci de laisser parler. Alors, Monsieur Lyogé.
Avant de détailler l'effet levier des investissements publics, rappelons quand même le but des ZAC que je viens très rapidement de présenter. Le but des ZAC, c'est ramener la population sur Metz, et pour cela, il faut construire à peu près 500 logements par an, j'y reviendrai. C'est ramener le commerce sur Metz, 30 000 mètres carrés plus 8 000 mètres carrés de diffus vont être construits ou sont en train d'être construits sur Metz. 500 logements, nous allons atteindre enfin ce rythme en 2011. Excusez-nous, hein. Le rythme était effectivement beaucoup plus faible en 2009-2010, mais pour construire un logement, il faut à peu près 3 ans. Et donc, ça ne peut pas être imputé à notre politique. Personnellement, je n'ai rien compris du tout à l'intervention de M. Lebeau, mais au moins une chose, il avait raison sur une chose, nous avons perdu des habitants. Et c'est pour ça que nous construisons, c'est pour ça que nous faisons tous ces investissements. Il faut... Pour ce qui me concerne, nous avons perdu, chiffre de l'INSEE à l'appui, entre 2000 et 2010, 1000 habitants. On n'a pas encore les chiffres plus récents, sauf si, effectivement, on peut les inventer, mais ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Ça veut dire qu'effectivement, il faut continuer à construire des logements. Malheureusement, la crise aujourd'hui nous frappe, mais nous sommes, par exemple, en autorisation de construction de logements. L'année dernière, nous avons été à presque 900 autorisations de construction de logements. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ces logements vont commencer. Il est bien clair qu'aujourd'hui, avec les effets de la crise, on en discute assez souvent en CMU, nous avons, les promoteurs sont assez frileux. Mais nous sommes en train de rattraper un certain retard fait par l'équipe précédente, jadis naguère, comme il est coutume de le dire maintenant. Bon, maintenant, sur deux mots quand même sur le fait que les Messins, les jeunes ménages, comme Thierry Jean, sont chassés de Metz par les impôts. Je voudrais rappeler à M. Lebeau que de son côté et du côté de M. Thiel, on a aussi des gens qui n'habitent pas nécessairement Metz. Alors, peut-être qu'il faudrait... Voilà. Voilà, c'est ça. Pourquoi insister sur cette politique... Pourquoi insister sur cette politique volontariste ? Des chiffres très simples. Un logement construit, c'est deux logements créés. Un logement construit, c'est deux emplois créés. Indirectement, deux emplois créés. Donc, ça veut dire qu'en 2011, nous avons permis que le bâtiment crée deux fois plus d'emplois qu'en 2009 et qu'en 2010. L'activité annexe du bâtiment, des artisans et des agents immobiliers nous félicitent à chaque fois qu'on peut faire des interventions dans ces corps professionnels pour le travail qui est fait. L'effet levier de l'investissement, il est assez simple. 1 euro d'achat de foncier, on multiplie par 5 l'aménagement public et on multiplie par 10 ce que le promoteur va mettre dessus. C'est-à-dire que l'investissement public a un effet de multiplication par 50 quand, effectivement, on additionne l'investissement public réalisé pour l'aménagement et l'investissement privé. Bien, je ne voudrais pas être trop long, et visiblement, l'opposition n'entend bien que ce qu'elle a envie d'entendre. Je conclurai ceci en disant, soyons fiers d'investir pour l'emploi, soyons fiers d'investir pour la rénovation de la ville, son attractivité, soyons fiers de notre ville.
Merci. Je remercie tous les orateurs d'avoir, du moins l'essentiel d'entre eux, d'avoir compris que c'était un débat d'orientation budgétaire. Certains ont parlé de budget, c'était une erreur, mais malheureusement c'était très long ceux qui ont parlé de budget. En fait, il ne s'agit pas de budget. Il s'agit d'un débat d'orientation budgétaire. Donc, je vous ai écouté avec soin, sans interrompre personne. Je remercie ceux qui ont interrompu personne également. C'est bien de se respecter dans les débats.